7,3 kg. C'est ce que consomme, en moyenne, un Français par an en chocolat. Et c'est énorme. Mais est-ce que vous savez seulement d'où vient ce chocolat que nous consommons tous? Comment est-ce qu'il est cultivé? Quel impact a-t-il sur le monde, sur l'environnement, sur les pays producteurs? Je suis Léa Reverdy et avec mon podcast Papille, depuis 2021, je pars à la rencontre des acteurs du sucré pour comprendre leur processus créatif. Et cette année, pour Pâques, j'avais envie de répondre à toutes ces questions autour de ce produit si consommé, mais plein de secrets, le chocolat. Alors pendant plusieurs semaines, je vous emmène avec moi à la découverte des coulisses de l'univers chocolaté. Au programme, rencontre avec des experts et expertes, discussions passionnées et échanges chocolatés. Bienvenue dans cette petite série documentaire dédiée au chocolat. Bonjour Antoine.
Bonjour Léa.
Comment vas-tu?
Très bien. Et toi?
Ça va, même si...
Bien arrivé à la fabrique.
Mais l'endroit est magnifique. Ça fait tout oublier le temps pluvieux. Du coup, je suis super contente de pouvoir discuter avec toi. Déjà, pour commencer, je voulais revenir un petit peu donc, sur toi, ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Donc déjà, la question que je pose à tous mes invités, c'était quoi, toi, ton dessert préféré quand tu étais petit?
Alors, mon dessert préféré, c'est étrangement ou de façon amusante, il y avait peu de chocolat. On mangeait du chocolat, mais on va dire que ma mère faisait pas tant de gâteaux de chocolat que ça. Faisait beaucoup de un flan caramel. Ça, c'était quelque chose qu'on faisait souvent, qu'on partageait en famille. J'ai un frère et une sœur, donc c'est des choses qui se partagent bien et qui sont assez gourmandes. Et puis, ce qui est drôle, c'est que maintenant qu'on a créé un Cointreau, Ma mère fait beaucoup plus de chocolat et des mousses au chocolat et des mousses avec des recettes très particulières, des choses qui sont pas du tout traditionnelles françaises. Donc des recettes beaucoup plus intenses et qui mettent en avant notre chocolat. Un petit nom de glissade parce que c'est vraiment plus intense qu'une mousse. Et ça, c'est des choses, c'est des desserts qui vraiment qui marquent parce qu'il y a ce fort goût de chocolat et qui est très présent.
Quand est-ce que le chocolat a commencé à devenir justement hyper présent dans ta vie?
Et alors, il a toujours été très présent. Moi, j'étais celui qui terminait les boîtes de chocolat et je me souviens de retour de Noël et de vacances où j'étais malade. Donc, le chocolat, il a toujours été présent, mais il a vraiment... il est devenu ma vie, notre vie avec Candice quand on a démarré notre première fabrique de chocolat en 2012. Avant ça, c'est vrai qu'on n'était pas destiné à faire du chocolat particulièrement. On l'utilisait, on faisait des gâteaux, voilà, on l'appréciait beaucoup, mais jusqu'à cette époque-là, on savait pas qu'on allait en faire notre vie.
Ça a été quoi l'élément déclencheur?
Disons que je vais beaucoup parler de nous avec Candice, oui. Parce que c'est fortement lié à notre histoire en fait. Je sais pas si tout seul j'aurais eu la même aventure en fait. Et on a vraiment construit cette histoire à deux. Et en fait ça a démarré pendant nos études. Nous on s'est rencontrés à Lille. C'est aussi pour ça qu'on est revenu dans la région après avoir démarré à Paris. Candice elle a passé un an en République Dominicaine et moi je l'ai rejoint. C'était pour un stage de fin d'études et moi je l'ai rejoint là-bas et en fait ce pays, on en est tombé amoureux. On a vu qu'il y avait énormément de matières premières. Il y a des fruits, il y a énormément de choses qui sont faites. Il y a du cacao et on l'a découvert là-bas. Ouais. Donc ça, c'était vraiment plus tôt. C'était en 2008. Et on s'est dit un jour, on ne savait pas pourquoi, c'est véridique. On s'est dit un jour, on reviendra là-bas pour faire quelque chose. Un peu comme le rêve américain, voilà, le rêve dominicain. Et on savait pas pourquoi, mais on s'est dit on y reviendra. C'est chaleureux, c'est un pays où il y a beaucoup de musique, les gens, il y a une vraie joie de vivre. On avait beaucoup d'amis locaux et voilà, il y avait et on s'est pas trompé parce qu'on y est revenu 4 ans plus tard.
Et après?
Et après, voilà, c'est une question de. Nous, on a démarré à la base, on est ingénieur. Ingénieur, on aurait pu travailler dans plein de domaines, dans la mécanique, l'électricité, l'énergie, enfin voilà, ingénieur généraliste, pas du tout pâtissier, pas du tout boulanger et autres, même si on avait une appétence pour ça. Il y a quand même un fil rouge, c'est qu'on est très, on a une fibre entrepreneuriale assez forte, on a toujours eu les idées ailleurs, depuis qu'on s'est rencontrés, on a créé plusieurs petites boîtes qui faisaient des différents produits, des bijoux et autres, des concepts sur Internet, voilà. Et puis un jour, en 2012, il y a eu cette opportunité de revenir en République Dominicaine. Et c'est là où on s'est dit, ben oui, allons faire du chocolat là-bas, ça sera bien, il y a du cacao, on connaît des gens là-bas, allons-y, lançons-nous. Et en fait, ça faisait, on démarrait notre carrière professionnelle à Paris, ouais. On travaillait dans des, alors, dans des startups en fait, ouais. Très simplement, et c'était super, c'était hyper dynamique, voilà, on avait plein de choses à faire à Paris, mais en fait, du jour au lendemain, à l'été 2012, on a chacun quitté notre job, on a démissionné. Alors ça c'est moi en fait ma boîte elle a fait faillite mais ça c'est autre chose. On s'est retrouvé un peu disponible et puis on s'est dit bah allons-y prenons nos petites économies, c'est le bon moment et on va partir en République dominicaine faire du chocolat. Et c'est ça c'est ce qu'on a dit à notre famille. Ça leur a fait assez peur. En août 2012 pendant les vacances ouais. Quand tu annonces ça au repas de famille enfin au petit-déj, on a fait ça au petit-déj, c'était sympa avec mes parents d'abord et ouais ils ont eu une drôle de réaction, ça leur a fait bizarre hein, parce que quand tu commences à construire ta vie, que ça y est tu commences à travailler et que là que tu leur expliques que tu ouais. vas tout quitter sans aucune logique pour partir créer une fabrique de chocolat en République dominicaine alors que tu n'es pas chocolatier, ouais. C'est pas très rassurant pour les parents. Mais voilà, ils nous ont demandé quelle était la logique du truc. On leur a dit qu'il n'y en avait pas et qu'on avait juste envie de partir à l'aventure. Et voilà, et un mois après, c'est ce qu'on faisait, on partait. Et en fait, la fabrique a ouvert vraiment en décembre 2012, donc vraiment très rapidement. Ça a été... c'est des projets qu'on ne peut pas mener en France, j'ai envie de dire, parce que ça va beaucoup moins vite. Il y a plein de freins administratifs et autres. Et là-bas, ça allait beaucoup plus vite. Donc, on a construit une fabrique de 400 mètres carrés. Il y avait, dès l'ouverture, entre 12 et 15 employés. Je ne me souviens plus exactement. Donc, c'était assez fou, en fait. Hein. Et le premier jour, on recevait 300 personnes. C'était assez impressionnant, des touristes qui venaient visiter et goûter. Et voilà. Et entre-temps, là, c'est la partie ouverture. Mais avant de faire ça... Il a fallu quand même sourcer le cacao, créer des packaging, etc. Enfin, voir comment on pouvait vendre les produits. Donc ça a été une toute autre aventure. Avant d'ouvrir, on a eu pas mal de frayeurs. Mais on s'est demandé si on allait réussir un jour à faire quelque chose. Ça paraît rapide, hein, 4 mois. Mais en 4 mois, on a l'impression de vivre 3 vies. Hein. C'était...
Bah oui, tu m'étonnes.
Ouais, voilà, c'était assez, assez complexe. On savait même pas si on allait avoir du cacao. On pouvait le toucher, le voir, visiter les plantations. Mais le cacao pousse en zone franche. Et les zones franches, le principe, c'est que tout est destiné à être exporté.
Ouais.
Donc pour avoir du cacao...
Sur place,
il fallait l'importer de République dominicaine en République dominicaine. Sauf qu'en fait, ça se fait pas directement en étant à la coopérative. Il faut passer par Santo Domingo, la capitale, et aller dans un bâtiment immense où il y a que les services administratifs. On n'a pas vraiment envie de passer de temps. Donc en fait, on faisait un détour de 8 heures pour aller essayer d'avoir un papier. On n'était pas sûr qu'on allait l'avoir. Et une fois qu'on l'avait, on pouvait aller à la coopérative pour leur acheter finalement la palette ou un peu la tonne de cacao qu'on voulait. C'était quand même un peu stressant parce que si on se trompait d'un papier, on avait fait 8 heures de voiture pour rien. Et enfin, on parle de voiture, on parle de... Là, c'est des pistes de terre à un moment. Et voilà. Mais donc, on y est parvenu. Et la première fois qu'on a ramené le cacao, on s'en souvient parce qu'on avait loué un camion qui, je crois, qu'il pouvait prendre une tonne de cacao. Et en fait, on est revenu à travers des pistes avec plus d'une tonne dans le camion. Franchement, le camion a pris cher. Et on se demandait si on allait vraiment arriver. À un moment, on s'était même arrêté dans un endroit très très pauvre où on s'est fait encercler de motos. On s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'étais dans le coffre en train d'essayer de remonter les sacs de cacao qui déséquilibraient le camion. Et à ce moment-là, Candice a démarré parce qu'en fait, elle m'a dit, mais en fait, accroche-toi parce qu'on est encerclé de motos, je sais pas ce qui va se passer. Donc, on a démarré. La porte latérale était bloquée par les sacs de cacao et puis on s'est arrêté quelques kilomètres plus loin à l'abri. Mais ça, c'était l'aventure pour ramener les premiers sacs de cacao.
Bah, pour le coup, une vraie aventure, quoi.
Et ouais, voilà. Et puis après, voilà, ça c'est, on a, après, là, c'était rodé. On savait un peu mieux comment faire. Mais ça a été notre première expérience dans le chocolat. Ça a été, intense, ça a été super parce qu'on vivait en République dominicaine à côté de la plage mais qu'on voyait pas tant que ça. Ça c'est la carte postale mais on travaillait vraiment tous les jours, les week-ends et autres. On n'avait pas d'enfants à l'époque, hein. Aujourd'hui on en a 3 donc c'est différent. Ouais. Et donc, mais voilà, ça a été une magnifique aventure. On travaillait avec les producteurs, on allait les voir régulièrement Et en même temps, ça s'est arrêté violemment parce que au bout d'un an, on a été obligé de tout abandonner. Un matin, on a pris un taxi et il est venu nous chercher dans notre résidence qui était déjà protégée. C'était une sorte de golf, on était obligé d'habiter là-dedans. Hein. Et il nous emmenait à l'aéroport et on a décollé, mais on a soufflé que quand on a décollé. Parce que l'aéroport, il peut toujours se passer plein de choses. Les bagages peuvent être remplis de choses qu'on n'avait pas prévues. Et donc, quand on a décollé, on était vraiment en sécurité. Parce qu'on s'envolait pour Bruxelles. Et on revenait vers Bruxelles. Et quand on est atterri, on a soufflé. On est revenu à Paris. Et on a récupéré. On est revenu chez nos parents. Parce qu'on avait tout abandonné pour partir là-bas. Et là, ils nous ont dit. Ouais, je me souviens plus s'ils l'ont dit. Mais dans leur tête, ils devaient penser très fort. Voilà.
Ouais.
Voilà. On vous l'avait dit. Mais sur le coup, c'est étrange, c'est vécu comme un échec et on en a parlé très peu. Et puis au fil des années, on a appris que c'était pas un échec, que ce qui s'était passé là-bas, en fait, on a fui à cause de la dangerosité. Il y avait la mafia locale, on devait payer des pots de vin tout le temps. Et nous, on avait quand même des valeurs qu'on... Aujourd'hui, à Encuentro, il y a un socle solide de valeurs, en fait. Des valeurs à la fois dans la fabrication, dans la façon de proposer le produit, de le vendre. On est totalement transparent. On fait, transparent et durable et éthique. Dans ces pays-là, malheureusement, si vous voulez bien fonctionner, il faut transgresser quelques valeurs. Et ça, on avait beaucoup de mal. Et c'était pas très bien perçu.
Alors là, déjà, j'ai plusieurs questions. Déjà, qu'est-ce qui se... Parce que du coup, tu me dis, on décide de faire ça, etc. Mais qu'est-ce qui se passe dans vos têtes et ce que vous faites quand vous arrivez du coup en République dominicaine et où, a priori, du coup, pour l'instant, vous connaissez rien, enfin, vous savez pas du tout comment on transforme du cacao en tablette de chocolat, quoi.
Oui.
Vous avez aucune idée de comment on fait ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Genre, comment vous vous dites... c'est quoi votre première démarche à l'origine, tu vois, à ce moment-là, en se disant... comment on réalise notre rêve?
Alors, l'histoire, elle est un poil plus compliquée dans le sens où on a rejoint des amis, en fait, qui eux avaient, étaient déjà en relation avec le milieu du cacao au Pérou. Donc, en fait, très rapidement, mais c'est vrai que ça complexifie un peu l'histoire. Avant d'arriver en République Dominicaine, on est parti 2 semaines au Pérou.
Pour voir
comment on travaillait cette matière, mais on n'était pas vraiment dans la fabrication complète. C'était vraiment pour comprendre ce que c'était que le cacao, le chocolat, et ensuite nous on repartait en République Dominicaine vraiment à deux créer le concept.
Et au moins vous avez
c'est
eu
comme
un
ça
petit
que ça
aperçu.
S'est fait. C'était un aperçu rapide parce que c'était un concept qu'ils étaient en train de développer. Et là, par contre, on est passé sur une fabrique très très grande, en fait, où une douzaine d'employés, c'est quand même assez important, mais c'était nécessaire parce qu'il fallait. On savait qu'on était dans un endroit très touristique et qu'il fallait pouvoir absorber les personnes qui allaient visiter. Mais donc sur place, on a quand même appris. On s'est rendu dans la coopérative. On s'est rendu. Je parle sur place en République Dominicaine. Ouais. On s'est rendu dans la coopérative à qui on achetait le cacao pour voir comment ça fonctionnait. On a visité des plantations, on a goûté. Après, on a testé plusieurs façons de faire le chocolat, plusieurs recettes. C'était pas du grand chocolat comme on fait aujourd'hui. On fait vraiment du chocolat de dégustation avec une vraie... le plus haut niveau de qualité possible, en fait.
Ouais.
Une précision dans toutes les étapes. Il n'y a pas de chocolat de seconde classe chez nous. Nos chocolats... pareil, il n'y a pas d'additif ou de facilitateur. On n'a pas le droit à l'erreur ici chez Encuentro. Et alors que là-bas, on était dans un milieu où il fait à peu près tous les jours 30 degrés, 95% d'humidité. C'était une vraie difficulté de faire du bon chocolat. On faisait du bon chocolat, mais on n'avait pas la prétention d'être sur un produit d'excellence.
Et du coup, il y avait quand même un côté un peu, j'ai envie de dire pas éducatif, mais quand même d'accueillir des touristes, de montrer un petit peu la réalité, comment ça se passe, etc. C'était ça votre projet aussi?
Il n'y avait pas du tout le produit, le chocolat, on le vendait uniquement dans la fabrique. Et il y avait la boutique à côté. Donc en fait, il fallait que les gens comprennent et viennent voir comment on fabriquait. On leur expliquait l'histoire du cacao, d'où ça venait. Et après, on leur montrait derrière des vitres, un peu comme ici aujourd'hui, comment on fabrique le chocolat. Et c'est cette transparence qui faisait que les gens étaient séduits. Parce que finalement, dans le monde du chocolat, là, on était en 2012... Il y avait très peu de personnes qui connaissaient. Alors, parmi les gens qui visitaient, il y avait beaucoup d'Américains. parce que c'est proche de la République dominicaine, beaucoup de Russes et quelques Français. Et donc voilà, les Français découvraient totalement comment on fabriquait le chocolat en fait, hein, et ils posaient beaucoup de questions. Alors un Français, ça va rester très très longtemps dans la fabrique, ça va poser beaucoup de questions, et puis ça dépense pas beaucoup. Les autres touristes, les Américains, ça va beaucoup plus vite, ils posent moins de questions. C'est assez marrant hein, de voir c'est la façon dont fonctionnait un peu la fabrique, hein, mais finalement, on aime beaucoup transmettre, partager, expliquer ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Les gens, quand ils viennent dans la fabrique aujourd'hui, ici à Lille, ils restent une demi-heure, une heure dans la boutique et ils regardent, ils sentent, ils goûtent. Enfin, ils goûtent tous les chocolats et c'est ça qui nous fait plaisir. On n'est pas là du tout à donner un produit et à dire, bah voilà, vous partez et on vous a rien expliqué. Non, c'est vraiment, c'est une immersion. Même si vous venez acheter une tablette, vous pouvez rester une heure, il n'y a pas de problème en fait.
Et c'est hypnotisant en plus.
Là, en ce moment, on fait les lapins de Pâques, mais on fait aussi les rochers, les tablettes. Tous les jours, on fait des tablettes de chocolat tous les jours. Ça, c'est vraiment notre produit phare, les tablettes de dégustation. C'est vraiment notre marque de fabrique. C'est le produit qui nous a fait connaître et qui est très différent de ce qu'on peut retrouver ailleurs. On a une signature, vraiment une signature gustative. Et c'est pour ça que, on a des chefs, des pâtissiers, des chocolatiers qui viennent chercher notre chocolat pour le travailler.
Alors ça, on va y revenir, mais d'abord, on revient à l'histoire pour arriver jusqu'à Encuentro, comme on le connaît aujourd'hui. Donc, du coup, vous repartez de République Dominicaine et vous revenez en France. Et là, qu'est-ce qui se passe? Parce que du coup, j'imagine que vous avez toujours envie de faire du chocolat.
Oui, voilà, mais en fait, ça a été tellement violent. On a quand même abandonné 12 salariés, on a abandonné un coffre-fort plein, parce qu'en fait, tout se passait en liquide là-bas. Vous ne payez pas par carte bleue dans les pays étrangers quand vous voyagez. Ça, c'est alors plus aujourd'hui, mais en 2012, pas trop. Ouais. En fait, on a abandonné tout ce qu'on avait mis. Et quand on a atterri à Paris, on n'avait plus rien.
Oui, c'était vraiment un départ précipité.
Parce que c'était dangereux. En fait, on dormait plus, on avait la boule au ventre, on était menacés. Et parce que ça marchait bien, en fait. Tous les jours, il y avait énormément de monde qui venait dans notre fabrique de chocolat et ça dérange. Et on nous demandait vraiment de payer de plus en plus de pots de vin. Et ça nous déplaisait fortement. Ouais. C'est la ligne rouge à pas franchir et tout fonctionne jusqu'au jour où il y a un problème. Donc ça nous a fortement, ça nous effrayait, ça nous déplaisait, on voulait pas. Et donc on retourne à Paris, alors là sans rien, avec un CV qui ressemble à rien. Et il va falloir, à ce moment-là, il a fallu retrouver du travail pour se changer les idées. Alors là, clairement, on voulait plus entendre parler de chocolat. C'était vraiment c'était très difficile. On avait vraiment, ça s'est mal passé. Et donc, quand on y repensait, ça nous prenait. On avait une sorte d'injustice. Ouais. Et donc, on a préféré oublier le chocolat, ce mot, nos projets entrepreneuriaux. Et on a repris une vie, on va dire, plus simple, plus cadré. On a intégré des boîtes qui étaient super avec un esprit entrepreneurial où on était salarié, on n'était plus dans l'entrepreneuriat. Mais voilà, ça a été un passage qui a duré de 2013 du coup, parce que on est revenu à l'été 2013 jusqu'en fin 2016. Donc on va dire 3 ans et demi où là pendant 2 ans on pouvait plus parler de chocolat. On disait quand on nous posait des questions, on disait que ça s'était bien passé, mais qu'on avait dû partir, etc. Ouais. Parce que c'était compliqué pour nous de parler d'échecs. Mais voilà, ça, on l'a mûri.
Et en plus, c'est ça, et vraiment pas un échec, puisque c'est pas un échec. Vous avez dû arrêter parce que ça fonctionnait pas.
En fait, la richesse de cette expérience, c'est qu'on on l'a compris au bout de 3 ans, hein, c'est qu'on avait tout fait. On a tout dessiné, on a dessiné la fabrique, on a cherché les fournisseurs. En fait, on allait dans des marchés qui étaient vraiment hyper dangereux, c'est ce qu'on nous a dit. Ensuite, à Santo Domingo, pour chercher des partenaires pour tout type de produits. En fait, même trouver un rouleau de scotch, ça devient compliqué en République dominicaine. Trouver un meuble, trouver une tasse, parce qu'en fait, il y a une population, on va dire, à 90% pauvre, qui vient du seuil de pauvreté. Et il y a 10%, et encore, je dis 10%, c'est peut-être 5% de personnes très riches. Donc, en fait, on vit au milieu des 4x4, des énormes 4x4 qui passent au milieu des bidonvilles. C'est un peu ça la réalité à l'époque en République dominicaine. Et trouver des fournisseurs, mais c'était hyper compliqué. Il y a même pas de service. Il y avait un service postal, mais qui coûtait très très cher. Vous envoyez pas des lettres en République dominicaine, ça n'existe pas. Donc en fait, c'était là en France, on veut faire quelque chose, on achète sur Amazon sur 50 000 sites qui existent de cuisine. trouver une boutique qui avait des emporte-pièces, des spatules, des Maryse et autres. Mais on a mis 2 mois avant de la trouver, celle-ci. Et c'était la seule de l'île, en fait, presque. Donc, on a passé notre temps à chercher. Et quand tu te balades sur un marché local avec l'équivalent de 1 000 $ sur toi, ça veut dire 5 fois le salaire moyen mensuel, ton ordinateur, ton Mac et autres, ben, disons qu'on était des gens, on parlait bien espagnol, on s'intégrait bien, on faisait pas touriste. Donc ça allait, mais on a réalisé après qu'on avait quand même pris pas mal de risques, mais on n'avait pas le choix parce qu'il fallait créer la fabrique. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on a appris énormément à faire par nous-mêmes, à tout faire par nous-mêmes. Et c'est ce qui s'est passé quand on a voulu créer. Donc après 3 ans et demi, voilà, j'y reviens parce que je me disais où j'en suis dans l'histoire. Après 3 ans et demi, on a commencé à reparler de chocolat et à se dire, en fait, c'est pas un échec. On a appris beaucoup de choses, on sait faire beaucoup de choses. Le ressentiment qu'on a là, il s'est estompé. C'est bon, on a accepté la situation et maintenant il est temps de refaire ce qui nous plaît. En fait, il y avait de plus en plus de torréfaction de café, de coffee shop un peu sympa. Nous, on habitait dans les Batignolles à l'époque. Et honnêtement, c'est en prenant un café un matin, tous les deux, on venait de louper, on était en avance pour le rendez-vous de la crèche, fabuleux. Et puis, en fait, quand tu prends un café dans un coffee shop, tu sens des odeurs, ouais. T'entends des bruits, etc. Et ça nous a replongé dans ce qu'on vivait en République dominicaine. Alors, il n'y avait pas cette odeur de café, nous, c'était le cacao, okay. mais ça nous a replongé là. Et là, on se dit, mais en fait, c'est vraiment ça qui nous plaît. Enfin, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'aujourd'hui, là, on attendait, c'était le deuxième enfant. Et on se dit, on a regagné un petit peu, on a quelques réserves, etc. Mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est pas dangereux de créer une fabrique de chocolat? Là, on arrive dans 2017, en France, dans un pays où il y a une forte tradition de chocolat. Oui, mais il y a énormément de grands chocolatiers stars. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce monde-là? Et on s'est dit, peu importe, nous, on sait faire du chocolat, on va le faire à notre façon, on connaît les coopératives, on va repartir de notre histoire. Mais au-delà de faire du chocolat, déjà, on va y mettre toutes les valeurs qui sont les nôtres. On va être très transparent sur la fabrication, comme on avait fait en République dominicaine, ce qui était finalement hyper innovant en 2012. C'était la naissance du mouvement Bean to Bar, mais c'était la naissance aux États-Unis. En fait, voilà, aux États-Unis, ils sont très précurseurs. En France, il n'y avait pas grand-chose. C'est plutôt apparu en 2018, là où il y a eu vraiment une effervescence pour la fabrication du chocolat.
Et donc, en même temps que vous, vous avez comment...
Nous, on a démarré finalement 2010, un an avant, un à 2 ans avant. Mais quand je dis qu'il y a eu une effervescence, c'est parce qu'il y a eu des... on a vu, nous, en 2018, on était contactés une fois par semaine pour former. Okay, alors qu'on avait Encuentro qui existait depuis un an, on était contactés pour former, expliquer d'où venait quel était notre process, nos fournisseurs.
Ouais.
C'était assez hallucinant. Et en 2019, c'était encore plus impressionnant. Franchement, c'était... Vraiment toutes les semaines, un mail qui arrivait, je veux venir chez vous. Nous, on était petit à petit, on était reconnus, on gagnait des médailles au Salon du Chocolat, aux Épicures, etc. Mais voilà, on était tous deux. On avait finalement en 2019 aussi une apprentie qui était là avec nous. Ça fait qu'on était 3 au total, mais c'était encore une petite entreprise. Les gens le voyaient pas forcément parce qu'on avait qu'un site internet et un site de production. Ouais. Mais voilà. Donc en 2017, on avait quand même assez peur de ce qu'on faisait, mais on s'est dit, lançons-nous. Et on va démarrer. On a d'abord pensé faire quelque chose de très grand, comme on avait fait en République dominicaine, aller vite, loin, le plus haut. Voilà, trouver des investisseurs dès le début, etc. Parce que c'est ce qui se passe à Paris. On cherche à faire vite et grand. Et finalement, après plusieurs mois, on s'est dit, mais quel est l'intérêt de faire ça? On va pas faire ce qu'on veut. On va être forcé finalement de faire des choses qui sont parce qu'il faut gagner plus. Ouais. Commençons le plus petit possible. Ça veut dire quoi petit déjà? Et faisons un produit qui nous plaît. Et après on verra. Et on se donne, on se dit, au bout d'un an, il faut quand même qu'on arrive à payer le loyer qu'on va trouver. Enfin voilà, il faut quand même qu'on ait créé quelque chose qui soit un peu rentable. Et on verra au bout d'un an ce qui se passe. Et c'est ce qu'on a fait. On a mis là aussi toutes nos économies qu'on avait de côté. On n'avait pas tant que ça. Et puis, on est allé voir juste une banque. Et ils nous ont prêté 40 000 euros pour acheter machines, créer, voilà, faire les premiers investissements. Mais 40 000 euros pour faire une fabrique de chocolat, c'est pas beaucoup. Ouais. Sachant que là, on a acheté deux machines qui prenaient déjà 80% de ces 40 000 euros. Et après, ben, il faut se débrouiller. Et c'est comme ça que ça a démarré, en fait. Et très rapidement, donc on a loué un petit espace à Montreuil, à côté de Paris, dans une fabrique qui s'appelait l'Atelier des Lilas, voilà, qui fabrique des gâteaux et qui fabrique toujours des gâteaux sans gluten, des gâteaux vegan, etc. Qui a déménagé depuis apparemment. Et ils avaient une vingtaine de mètres carrés de dispo. Donc nous, on est arrivé, on a mis des scotch au sol, mais on vous prend 20 mètres carrés, pas plus parce qu'on ne pourra pas payer plus. Et on installe nos trois machines et on a démarré comme ça. On a commandé les machines. Et à partir du moment où elles sont commandées, payées, c'est là où l'aventure commence. L'élastique dans le dos, bon bah, on a sauté et c'est parti.
Mais en plus, est-ce que... J'en ai aucune idée, mais du coup, parce que effectivement, à l'époque, c'était beaucoup moins développé, toute cette partie bean-to-bar. Donc, il y avait. Enfin, du coup, j'imagine que. Est-ce que les machines, c'était pas aussi plus compliqué
de... C'était hyper compliqué
ouais,
de les trouver.
Ça,
hein.
D'accord, parce que j'imagine qu'aujourd'hui, ça doit être un peu plus simple.
C'est très simple, on va dire. Ouais. Le plus compliqué. Enfin, la difficulté, elle est ailleurs dans notre métier. À l'époque, on a mis. On a mis mais plusieurs mois avant de trouver la bonne machine qui nous permettait de fabriquer le chocolat. On a avant de trouver le cacao qu'on souhaitait. Qui étaient les fournisseurs de cacao, les sourceurs. Comment on allait. Enfin, tout était compliqué. Il fallait trouver des moules. Il fallait trouver comment faire des packaging. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019, je crois, ou en 2018, il y a une chocolaterie américaine qui a publié un livre qui est devenu la Bible, que tout le monde lit. Et dedans, ils ont publié tous leurs fournisseurs.
OK.
Donc, en fait, donc finalement, ce monde s'est totalement ouvert. Et nous, ce qui nous avait pris 6 mois, 1 an à trouver était publié du jour au lendemain. Et c'est ça qui a fait qu'il y a eu un véritable engouement ensuite pour le bean to bar, que tout le monde s'est lancé dedans en pensant que c'était, je dis en pensant que c'était une opportunité, parce qu'en fait c'est un métier passion, comme pâtissier, boulanger, il y a un moment, faut pas compter ses heures, faut être prêt à affronter des problèmes, il y en aura. Et en l'occurrence, en chocolaterie, en fabrication de chocolat, faut vraiment être passionné par les machines, le cacao en lui-même qui est une matière première très, très complexe. Voilà, si on veut la travailler de la façon, enfin dans la tendance du bean to bar, c'est-à-dire sans aucun additif, sans facilitateur, voilà, c'est sans beurre ajouté, sans beurre de cacao, sans lécithine de soja, sans vanille, sans sel, sans tous ces produits qui sont là pour aider, masquer, voilà, faciliter la dégustation, mais en fait ils adoucissent le goût, ils adoucissent les défauts, ils font un chocolat qui est quand même plus lisse. Et si on veut travailler sans ça, eh ben on s'arrache les cheveux. On s'arrache les cheveux jusqu'à bien comprendre ces chocolats, et c'est ce qui s'est passé il y a des mois, les premiers mois avec Candice, on s'est retrouvés, je crois que c'était le deuxième mois, on avait des commandes, on avait deux partenaires, trois partenaires. Ouais. Le printemps, très vite, en fait on l'a fait un peu au culot, mais on s'est présenté au printemps du goût. On est arrivé devant le bureau, on a dit bon, voilà, on fait du chocolat, voilà nos tablettes. Et ils étaient pas très réceptifs, et puis on les a sortis et on a dit mais goûtez juste. Et puis voilà, et puis quand ils ont vu les tablettes, les packaging, et ils ont goûté le chocolat, ils ont dit ah, c'est super bon. Par contre, il y a une sélection très complexe, il y a une vraie sélection, ouais. Par le bureau, des chefs, etc. derrière, donc donnez-nous ce que vous avez, enfin si vous pouvez, et on vous rappelle. Et ils nous ont rappelé 3 jours après en disant qu'ils avaient adoré et qu'ils sélectionnaient la gamme. Donc mais ça, c'était vraiment au début. Et là, le problème, c'est qu'on se retrouve avec une commande, mais on n'était pas capable de la sortir parce qu'en fait, on avait beaucoup de difficultés à tempérer notre chocolat. Ça paraît fou pour des chocolatiers, mais le problème, c'est qu'on travaille avec des cacaos qui ont des on modifie pas le chocolat en mettant du beurre. Et le beurre va avoir tendance à faciliter le tempérage, la manipulation, etc. Et nous, comme on était juste avec des fèves de cacao et du sucre pour garder le maximum de goût, eh bien, nos chocolats étaient de fluidité différente, de teneur en beurre différente, naturelle. Et du coup, il fallait apprendre à chaque cru, chaque recette presque à le tempérer. Et on sortait des moules blancs en permanence. Okay, on avait des lignes, des centaines de tablettes blanches, on n'y arrivait pas. Et on a fini à force de tests par trouver pourquoi, à comprendre pourquoi. Et voilà, c'est un peu l'histoire de la tarte à tatin, mais on a fait énormément de tests et on voyait qu'il y en avait qui étaient bons. Quand je dis que c'était pas bon, c'était pas que les tablettes étaient blanches, mais elles étaient commercialement. Le chocolat, c'est le monde un peu du parfait, de la brillance. Il faut que ça soit craquant, que ce soit impeccable. Et là, vous avez un chocolat qui a des voiles blancs et parfois des rayures blanches. Et ça, c'est pas acceptable pour nous. Et aujourd'hui encore, on ne commercialise jamais une tablette comme ça. On les refond.
Tu peux le refondre.
Oui, on peut le refondre tant qu'il n'y a pas d'inclusion. Enfin, on peut tout refondre en fait dans le chocolat, pas indéfiniment, mais on va dire 2-3 fois, il n'y a aucun souci parce qu'on le fait dans la même journée. Mais l'idée, c'est de ne pas arriver à ce résultat-là. Et aujourd'hui, on refond très très peu parce qu'en fait, on a formé l'équipe à faire attention et à jamais faire une production tant qu'on n'est pas certain que le chocolat est bien tempéré. Donc, il y a plein de choses qu'on regarde. Et ça, c'est de la vue. On fait ça à la vue. On écoute beaucoup les machines. On regarde la fluidité du chocolat. On voit... Enfin, voilà. Tout se fait avec les 5 sens. Et c'est pas du tout... Aujourd'hui, on a des tempéreuses, mais elles sont là juste pour nous accompagner. Elles font pas tout. Le matin, on n'appuie pas sur un bouton et ça sort. Loin de là. Mais donc voilà, et on a fini par trouver comment tempérer nos chocolats, et on dit maintenant, on utilise même le mot de dompter parce que nos chocolats sont vraiment complexes à travailler, mais tout ça c'est au service du goût, c'est parce que derrière vous avez des notes qui vont être fruitées, acidulées, qui vont être assez fabuleuses, et c'est ça qu'on va chercher. Mais donc la vraie difficulté c'est ça, on revient à Montreuil et là on avait notre petite fabrique et on finit par comprendre vraiment pourquoi il y a une difficulté, comment pas la contourner, mais comment la dompter cette difficulté, nos cacaos.
Mais du coup, parce que tout à l'heure tu me disais, à l'époque en République Dominicaine, vous n'étiez pas forcément sur ce chocolat d'exception et
non.
Tout. Mais du coup là, quand vous commencez à Paris, il y a cette volonté de se dire... On passe au...
C'est ça. Ben, on est à Paris. Pendant ces 4 ans, on vit à Paris. Donc, avant de créer Encuentro, on voit que les épiceries fines, les commerces de proximité se développent, les torréfactions se développent. On voit qu'il y a de plus en plus de marques monoproduits. On voit que tout ça se développe finalement. C'est assez récent. Et on se dit que si on doit faire du chocolat, même si on a... À l'époque, pas de légitimité, on n'a pas gagné de prix, on n'est pas formé par tel ou tel grand chef, on n'a pas d'étoile, etc. On a un CV qui est vide, en fait, en termes de dans la gastronomie française. On se dit qu'on va faire ce qu'on aime, mais que, voilà, on va essayer de mettre la qualité le plus haut possible, parce que s'il y a une chose en France qui est importante, c'est la gastronomie de qualité. On peut pas faire un produit moyen. Ça n'aurait pas de sens. Et puis, c'est pas nous. Nous, on est vraiment puristes. Aujourd'hui, on fait encore en grande majorité des tablettes. Pourquoi ? Parce que on adore créer des nouveaux chocolats. Mais je parle pas de mouler des chocolats, de créer des bonbons de chocolat. On adore créer des crus, en fait. On va créer un chocolat 70%, 85% ou 100%. Et le créer, ça veut dire trouver une torréfaction, trouver un conchage, trouver une maturation pour ce chocolat. Et c'est ça qui nous passionne. On est vraiment des puristes du chocolat. On connaît notre matière première sur le bout des doigts aujourd'hui. Et donc, on ne pouvait pas être sur un niveau de qualité moyen. Voilà. Mais après, la qualité... Il y a une part de subjectif dans tout ça. Il y a une part d'objectivité. L'objectivité, c'est que... On a, dans notre chocolat, on aime quand la texture est souple, la texture est douce, pas quand le chocolat est rugueux, sableux, etc. Ça se retrouve, il y a des artisans qui aiment ça. Dans notre cas, on mesure toujours cette texture, cette granulométrie. C'est des façons complexes de mesurer, mais on voit que le chocolat, il faut qu'il soit entre 12 et 17 microns, sinon on le sent sur la langue, comme des petits grains de sable. Et ça, c'est une qualité qu'on mesure. Ensuite, il y a la qualité qu'on ne mesure pas, mais qui est totalement subjective, c'est le goût. Le goût, alors il y a quand même une part d'objectivité, c'est qu'on ne veut pas de goût moisi, on ne veut pas de goût fumé, enfin de goût qui serait désagréable, on ne veut pas de goût de champignons, on ne veut pas de goût de... Voilà, et ça c'est lié au sourcing, à la qualité des fèves, le brûlé c'est lié à la torréfaction, on fait très attention à cette température de torréfaction, parce que derrière, comme je disais, on n'a pas de beurre ajouté, on n'a pas de vanille, on n'a pas de sel, etc., de choses qui pourraient masquer, donc on doit être le plus précis possible. Donc ça c'est de la qualité objective, voilà, et la subjectivité là-dedans c'est quelle température de torréfaction, quel conchage, quelle durée de conchage, etc. pour arriver à un goût qui nous plaît. Et en fait on est un peu comme des créateurs de parfums parce qu'en fait on va chercher dans un cacao quand on le reçoit, c'est un peu une découverte, on sait jamais ce qu'on va vraiment avoir en sortie, on va chercher... à le comprendre. Quelle est sa note de tête ? Est-ce qu'il en a ? Celle qui s'exprime directement, la note de cœur, la longe. La longe, elle est facile à faire ressortir, c'est celle qui va perdurer. Finalement, et qui va durer de longues minutes. Souvent des notes un peu généreuses, des notes de miel, des notes de caramel, ou voilà. Et finalement, les plus complexes, c'est les notes de tête, les notes de cœur, parce qu'elles, elles peuvent ne pas apparaître ou disparaître à la torréfaction. Voilà. Et donc, notre vraie recherche, c'est d'aller trouver la torréfaction et le conchage qui va vraiment révéler les trois, ou celle qui va avoir un équilibre entre les trois qui est le plus intéressant pour nous.
Ouais.
Et c'est là où c'est notre choix. Donc, on va faire plusieurs tests de torréfaction, de 5 degrés en 5 degrés, et puis après, on fait du chocolat derrière. Mais c'est là, le test, c'est pas juste de torréfier, parce que derrière, il faut faire du chocolat. Et donc, généralement, pour un test de torréfaction, il faut une semaine pour arriver à une tablette. Parce qu'effectivement, on fait d'autres choses en parallèle, on n'est pas dédié à 100% à créer ça, donc on prend le temps. Et voilà, donc pour créer un nouveau chocolat, ça va nous prendre au final plusieurs mois.
Pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers, est-ce que tu peux rapidement expliquer quelles sont les différentes étapes, justement, de la fève jusqu'à avoir une tablette?
Alors, on va dire qu'il y en a 6 ou 7. La première étape, bon déjà, sourcer les fèves.
Oui.
C'est une belle étape, mais c'est important parce que si on n'a pas de bonnes fèves, on ne fait pas de bon chocolat. Voilà, ça c'est important. Mais dans la fabrication, une fois qu'on a les fèves, on va les trier. Donc évidemment, à l'échelle industrielle, il y a des machines pour ça. À l'échelle artisanale, et nous, artisanale, ça veut dire on est entre 15 et 20 tonnes cette année, on va trier 15 à 20 tonnes à la main. Et trier, ça veut dire enlever les fèves qui sont plates, insipides, qui sont cassées en deux, ou alors couper la machette. Il y en a pas mal hein, quand même, parce que c'est quand même un fruit qui n'est pas récolté par des machines, il est récolté à la main, on ouvre la cabosse à la machette. Donc ces fèves-là, on ne les prend pas. Il y a des fèves collées, il y a des fèves... parfois, il peut y avoir des petits cailloux, il peut y avoir des branches, etc. Enfin voilà, on est... Là, on sent qu'on est en direct avec les producteurs. Après, il y a des producteurs qui font ce travail de tri en amont et qui le valorisent avec un prix plus élevé. Et nous, on est prêt à payer pour ça. Et parfois, c'est des projets sur lesquels on a agi. Par exemple, on a dit, maintenant, on est prêt à payer 1 $ de plus la tonne, le kilo, parce que la tonne, c'est pas beaucoup, le kilo, parce que 1 $ chez vous, ça vaut beaucoup plus que chez nous. Et dans ces cas-là, on passe de 7 $ le kilo à 8 $ le kilo, ce qui est extrêmement cher. Hein. Mais nous, on reçoit un cacao qui est parfaitement trié.
Ouais, au moins,
et en France, disons que la valeur ajoutée est moindre à faire trier quelqu'un pendant des heures. Et puis, ça nous coûterait beaucoup plus cher que 1 $. Donc, en fait, on ramène de la valeur dans le pays producteur. Et nous, on a un super cacao. Donc, le tri, première étape. Deuxième étape, une fois qu'on a trié, on va torréfier. Donc, c'est là où je disais, on va trouver quelle est la meilleure torréfaction. Donc, torréfaction, c'est une certaine température, une certaine durée. On torréfie entre 100, 140 degrés, jamais au-delà. Voilà. Et pour la durée, c'est nos petits secrets. Et la façon dont on le fait, évidemment, la température, elle fluctue, etc. Quel volume, comment ça évolue. Ça, c'est ce qui fait aussi notre signature. Mais en tout cas, je dirais même en dessous de 110 degrés, il n'y a pas vraiment de torréfaction. Il suffit d'acheter des fèves, de les mettre dans son four et de sentir. À un moment, il ne se passe pas un crack comme dans le café, mais on sent qu'il y a des arômes qui sortent.
Ouais, okay.
Et c'est, voilà, nous, on fait des tests à petite échelle, c'est-à-dire 250 grammes, 300 grammes, parce que quand on reçoit des échantillons, il n'y en a pas souvent beaucoup. Et voilà, donc on fait ces tests dans notre four, chez nous, ici, maintenant, à la fabrique. On ne les fait pas par 100 kilos ou autre, faut pas croire.
Donc dans un four classique.
On le fait dans un four classique, on met sur une plaque perforée 200, alors parfois on en a plus, parfois on met 500 grammes et puis on fait monter la température et on essaye de voir, alors on essaye de voir à partir de quand les odeurs de cacao commencent à sortir.
Okay.
Et là après on va faire plusieurs tests, voilà, je disais de 5 degrés en 5 degrés, donc c'est ça qui est long parce qu'on fait différentes plaques,
etc.
Et à la fin, on finit par goûter, mais on goûtera. Alors, on va goûter toujours les fèves. C'est super bon, les fèves torréfiées. C'est vraiment des odeurs, ça, qui nous restent de République dominicaine. Et c'est une des meilleures odeurs, cette fève qui craque, que tu craques entre tes doigts et qui libère le gruet, donc la fève, et que tu peux goûter. Ça, et qui est encore un tiède ou chaude. Ça, c'est vraiment magique. Mais c'est pas là où on va avoir le plus de facilité pour cartographier notre fève. Là, on va pouvoir sentir si elle est acidulée, si elle est fruitée, etc. On va pouvoir sentir les grandes familles d'arômes. Mais pour aller dans la précision, on fait des dégustations avec un chocolat 70% qui est fini. Fini, donc qui est d'une qualité où on pourrait le vendre, en fait. Et c'est pour ça que c'est très long. Pourquoi ? Parce que le sucre de canne qu'on utilise, il n'est pas là pour pour faire passer un cacao de mauvaise qualité ou autre. C'est vraiment un exhausteur de goût. Alors évidemment, on est dans la limite. Nous, on fait toujours un nouveau cacao, on va le travailler toujours en 70%. C'est pour ça que notre gamme, elle est très simple, très lisible. On a 12 tablettes 70% qui vont avoir toutes une origine différente et un producteur différent et des notes très différentes. C'est pour ça qu'on les a sélectionnées. Et donc 70%, c'est un bon équilibre pour avoir les arômes du cacao et prendre du plaisir. À 75%, il y a une intensité cacaotée qui déplaît déjà et qui peut être bloquante pour certaines personnes. Ouais. Donc, par contre, on est clivant dans nos choix, c'est-à-dire qu'on fait du 70% et ensuite on va à 85%. 85%, il y a une belle amertume. Mais pour certains qui aiment le chocolat intense, parfois ils la sentent même moins, pas trop en fait, parce que nos chocolats 85 sont très doux, parce que le cacao est de très grande qualité et notre travail aussi. Donc on va toujours faire ces tests et le 70%, c'est ce qui nous permet de vraiment sentir le panel aromatique qu'il y a dans ce cacao. Et c'est là où on va choisir la meilleure torréfaction. Et c'est là aussi où on voit qu'il y a des cacaos qui se comportent différemment. Il y en a qui, en montant en température, vont développer du fruit, d'autres qui vont le perdre.
Ouais.
Et c'est là où on ajuste pour avoir cet équilibre entre les notes de tête, de cœur et la longe. Donc ça, c'est vraiment l'expérience en fait qui parle. Aujourd'hui, Encuentro, ça existe depuis plus de 7 ans. Et on a fait énormément de tests, on a goûté énormément de cacao, donc il n'y a pas de bibliographie qui t'explique comment torréfier ton cacao. En fait, il y a bien des formations qui existent et beaucoup de confrères se sont formés comme ça, mais dans notre cas, on a fait vraiment ce qu'on aimait. On n'a pas suivi de formation. On a fait le chocolat qu'on aimait. C'est pour ça qu'on est très différent de ce qui se fait aujourd'hui dans le monde du chocolat. Nos choix sont rarement similaires à ceux des confrères et notre signature. Après, on aime, on n'aime pas hein, là aussi, mais on a une vraie signature Encuentro. Ça, c'est évident, on goûte différentes tablettes. Même avec des crus similaires, il y aura un goût différent.
Donc, après la torréfaction,
concassage des fèves pour séparer la cosse du gruet. Et à partir de là, on peut récupérer le gruet qui va être la matière première pour faire le chocolat. Et donc là, on va l'introduire directement dans des meules. Donc, c'est des machines de réplique à l'ancienne. Donc, c'est des roues de granit de 50 kilos pour que les gens visualisent. C'est gros comme une roue de voiture, à peu près. Et ça va rouler sur une dalle de granit. Donc, ça fait quand même deux roues de 50 kilos qui roulent sur une dalle de granit. C'est des machines qui sont assez sensibles. Hein. C'est cette machine-là qu'on a achetée au début et qui coûtait assez cher et qui participe aussi à notre goût. Et il ne faut pas se tromper avec ces machines parce qu'il ne faut pas trop les dérégler, il ne faut pas que les roues appuient trop, il ne faut pas qu'elles appuient trop peu. Et finalement, même si elles font 50 kilos, on peut très vite la bloquer avec quelques pelles de gruet en trop. Donc voilà. Et donc, on ajoute d'abord le gruet qui va très vite. Alors, c'est comme des éclats de cacahuètes, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais quand même plus dur que la cacahuète hein, parce que la teneur en beurre est plus faible. Je ne sais pas quelle est la teneur en beurre en huile de cacahuète, mais elle est très élevée. Alors que dans le cacao, c'est entre 40% de beurre de cacao et 60% pour les fèves les plus grasses. Donc là, on parle de teneur en beurre naturel. Et donc, très rapidement, avec les roues, si on n'en met pas trop vite, les roues vont écraser et faire une pâte de cacao, pas de chocolat, parce qu'on parle de chocolat que quand on met le sucre.
Ouais.
Et quand la pâte est suffisamment fluide, on introduit le sucre de canne à hauteur de ce qu'on souhaite. Donc, on met 30% de sucre quand c'est du 70%, on met 15% de sucre quand c'est du 85% et 0% quand c'est du 100%. Et rien d'autre. C'est nos seuls ingrédients. Et après, la machine va écraser, d'abord broyer, pendant un certain temps. Et on va dire qu'à partir d'un certain moment, quand la pâte est suffisamment fine, on passe au conchage. Et ce conchage, il se déroule dans la même machine. Hein, c'est dans la continuité. Les roues continuent de tourner. Mais le conchage, c'est le fait d'aérer le chocolat, de le caresser, de le polir, en quelque sorte. Si on prend l'image de grains de sable qui se transforme en petit galet. Et pour arriver à une granulométrie qui est suffisamment fine pour que la langue ne le sente pas. Que ça paraisse être comme un liquide, mais le chocolat, ça reste un solide. C'est pas un liquide. Il y a le beurre qui se fluidifie, mais dedans, il y a la poudre de cacao et le sucre. Et donc, comme je disais, on est entre 12 et 17 microns pour que ça soit suffisamment fin sur la langue et agréable. Voilà, ça, c'est un choix. Et ça fait que le chocolat, bah, il va rester quand même assez longtemps. Ça se compte. Il y en a qui vont le laisser un jour, il y en a qui vont le laisser deux jours. Voilà. Nous, on a aussi notre façon de faire. On est très lent dans la fabrication de notre chocolat. Je dirais même qu'on est parmi si ce n'est le plus lent de France. C'est, voilà, ce qui compte, c'est qu'on ait le goût qu'on souhaite à la fin et pas qu'on produise le plus vite possible. Même si fabriquer du chocolat, ça a un coût, c'est assez un coût exorbitant parce que il faut acheter le cacao, on le paye très rapidement le cacao. Hein, nos sourceurs le ramènent à Amsterdam, à Anvers, on en a aussi au Havre, et eux l'achètent directement. Donc nous, on peut pas les payer à 90 jours.
Ouais.
Donc généralement, le cacao, on le paye soit au cul du camion, comme on dit, soit à 15 jours. Mais okay. C'est des délais hyper serrés. Et là, nous, on a que les fèves. Et à partir de là, commence tout le process. Donc en fait, ça nous coûte très très cher de fabriquer du chocolat. C'est un peu comme quand on fabrique des grands vins, quand on dit qu'un vin est un vin millésimé, il date de 2015, etc. Bah, il faut bien comprendre que la bouteille a été fabriquée en 2015 et que ça fait maintenant 9 ans qu'elle attend et qu'elle n'est pas vendue. Donc elle gagne en prix. Mais dans notre cas, parler de millésime, c'est encore complexe pour le client final. On le fait, hein. Mais ça ne rajoute pas tant de valeur que ça parce que les gens ne sont pas encore prêts, même si c'est ce qu'on fait. Voilà, mais donc ça, on en arrive à l'étape suivante. Une fois que le chocolat est fabriqué, qu'il a le goût, la texture qu'on veut, on vide donc cette meule. Aujourd'hui, on en a 5 hein, qui tournent en parallèle.
Okay.
Donc ça fait des beaux volumes. Et voilà, et encore une fois, on n'a pas pris une machine plus grosse qui permettrait de faire 500 kilos, une tonne d'un coup. On a multiplié les petites machines qui fabriquent toujours le même goût. Et on fabrique de la même façon qu'on fabriquait au premier jour, mais on va dire 5 fois plus vite. Et je pense qu'on a même amélioré la qualité parce qu'on connaît encore mieux nos machines. On avait beau vouloir être très précis au début, on a compris encore plus de choses et on est encore plus exigeant aujourd'hui. Donc ça, l'équipe, elle le voit tous les jours. Sur la qualité, on est intransigeant et on laisse rien passer. Mais voilà, c'est parce que, encore une fois, on est parti de rien. Notre légitimité, on l'a gagnée parce que des gens ont décidé que nos tablettes avaient un goût différent, qu'elles sortaient du lot. Et donc voilà, cette exigence de qualité, on l'a placée comme le souci premier dans notre fabrication. Et pour rien au monde, on changerait ça. Donc, et c'est ce qui fait que Encuentro voyage nos tablettes. On la fabrique aujourd'hui à Lille et demain, elle est au Japon, elle est aux États-Unis. On s'y attend pas. Elle est photographiée dans tous les angles. C'est assez hallucinant ce qui se passe avec le chocolat. Donc, on peut pas envoyer une tablette blanchie.
Non.
Mais c'est hallucinant de voir qu'elles sont photographiées sous tous les angles.
Ouais.
Donc c'est un peu stressant. Mais quand quelqu'un arrive dans l'équipe, on lui explique pourquoi on a cette exigence de qualité tous les jours. Et on lui dit ce que tu vas fabriquer là. Demain, c'est photographié, c'est mis sur Instagram. Donc s'il n'y a pas de brillance, pas de croquant, si on voit que c'est granuleux, si on voit qu'il y a des traces de doigts, c'est la catastrophe.
Ouais.
Donc sache qu'on n'accepte aucune trace de doigts. Et la brillance doit être parfaite, etc. Mais après l'équipe prend beaucoup de plaisir hein. C'est juste que on n'est pas du tout des tyrans, mais on leur explique rapidement que le niveau de qualité attendu c'est ça et qu'il n'y a pas le droit à l'erreur. Donc voilà. Mais alors j'en reviens à l'autre étape. Alors si on compte torréfaction, concassage, broyage, conchage en même temps, ça fait 3. Derrière on vide, maturation. Maturation, c'est un vrai sujet parce que c'est quelque chose de totalement inconnu. En 2017, quand on crée Encuentro, ben finalement on achète du cacao mais plus qu'on en vend. Donc qu'est-ce qui se passe? On en fabrique, on fabrique des briques de chocolat de 6 kilos qu'on stocke là comme on fait toujours aujourd'hui. Et on en vend en partie, mais bon, il faut bien comprendre qu'un sac de cacao de 70 kilos, ben, ça représente 700 à 800 tablettes. Donc il faut les vendre, et comme on faisait plusieurs crues, on faisait République Dominicaine, Haïti, Madagascar, Guatemala dès le début, ben, on vend pas 700 tablettes par mois, hein. C'est même d'un cru. Hein. Au début, on s'est demandé si Encuentro allait survivre, hein, parce qu'on n'en vendait pas suffisamment pour rentabiliser, pour payer le loyer. Donc c'était ça qu'on avait calculé pour que ça marche bien. Mais voilà, tout s'est fait petit à petit, et les clients ont découvert au fur et à mesure. Mais au bout d'un an, c'était pas encore viable. Et donc on se retrouve avec des briques de chocolat qui mature en quelque sorte, mais là nous on appelait ça qu'on stockait, et on voit bien qu'elles sont fabriquées et on les goûte régulièrement pour voir si elles rancissent pas, si elles changent pas. Elles sont conservées à température ambiante à côté de nos machines, et en fait elles sont pas à l'air libre, hein. Elles sont dans du papier sulfu, dans du cellophane ensuite, complètement à l'abri de l'air, il n'y a pas d'air à l'intérieur, etc., à l'abri de l'humidité. Et en fait on se rend compte après 3, 4, 5 mois, on ouvre une brique, on transforme les tablettes, elles ont un peu changé de goût. Le goût a évolué, en bien, parce qu'en fait, on a gagné en rondeur, il y a moins de vivacité dans la dégustation, l'amertume est plus douce quand on est sur des pourcentages plus élevés. Et là, on se dit, mais en fait, c'est marrant, il se passe quelque chose, le chocolat a l'air de bien vieillir. Et en même temps, on fait des recherches, on se rend compte que on le savait, mais c'est riche en tanins, c'est un des ingrédients, le cacao, une matière première qui est la plus riche en tanins. Il y a plus de tanins dans le cacao que dans le raisin, que dans le thé, que dans le café. Donc en fait, pourquoi ça ne maturerait pas alors qu'on sait très bien que le vin vieillit ?
Ouais.
C'est assez hallucinant. Et il y a beaucoup de scepticisme autour de ça, mais nous, le fait est qu'on le goûte. Donc on se dit, on va commencer à faire vieillir, donc on fabrique plus de chocolat. Alors pour le coup, on le stocke et ça nous coûte très cher. Et on attend, et il y en a pour lesquels on n'attend pas, etc. Et on voit des évolutions qu'on trouve, nous, positives, et d'autres qu'on trouve d'autres moins positives. Ce que j'appelle moins positif, c'est qu'on a vu, par exemple, que notre cacao du Guatemala, qui a des notes de fruits exotiques, de fruits jaunes, d'ananas, de fruits de la passion, qui est excellent, mais qui est très complexe à travailler, pourquoi il est complexe ? Parce qu'il y a une vraie acidité qui est super intéressante. Et on l'a fait maturer, et on s'est rendu compte que l'acidité disparaissait, et que ce qui était des notes de fruits exotiques se transformait en notes de raisins secs, de fruits secs.
Okay.
Et c'était pas mauvais, mais en fait, c'était totalement différent de ce pourquoi on avait sélectionné ce cacao, de ce pourquoi on était tombé amoureux. Et on se dit, mince, c'est quand même dommage. Donc lui, on a décidé de moins le faire maturer. Et quand je dis moins, c'est qu'on est resté sur des durées de 1 à 2 mois. Voilà, on fait hyper attention, 3 mois, mais pas plus. Alors que sur les autres, République Dominicaine, Haïti, on s'est rendu compte que 6 mois, 12 mois, c'était des temps de maturation qui étaient super et qui donnaient beaucoup de rondeur, beaucoup d'équilibre à la dégustation. Et sur les forts pourcentages, on est monté entre 12 et 24 mois. Et là, on a réalisé que d'une part, le cacao ne rancissait pas. Le beurre de cacao est extrêmement stable. Après, en faisant des recherches là-dessus, on s'est rendu compte que c'était un des beurres les plus stables qui existait.
Okay.
À l'heure actuelle, on n'a jamais eu chez Encuentro ne serait-ce un cacao qui était ranci ou un chocolat qui était ranci parce qu'on l'avait fait maturer trop longtemps. Donc, c'est pour dire que c'est quand même une matière première très résistante.
Ouais.
Et donc, on s'amuse à faire vieillir le chocolat comme ça au fur et à mesure. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de théorie qui dit qu'il faut faire comme ça. Il y a des cacaos qu'on ne fait pas vieillir. Le cacao sauvage de Bolivie, lui, on a fait des tests et il s'est avéré que la note de l'allonge prenait tout le dessus sur les notes de tête et la note de cœur, qui étaient fruitées, florales et autres, et on perdait toute la singularité du chocolat. Donc lui, dès qu'on le reçoit, déjà on le fait par petits lots de 25 kilos. C'est un enfer à fabriquer parce que ça fige très rapidement sur les machines, etc. Parce qu'il faut le maintenir en température quand on le broie. Et dès qu'il est fabriqué, on le met en tablette, parce qu'en tablette, une fois qu'il est tempéré, il est stabilisé.
Okay.
Donc là, on va dire qu'il n'y a pas de vieillissement en tablette, ou en tout cas, il est fortement ralenti, alors que nos briques de 6 kilos, elles sont non tempérées et elles vont blanchir. On peut imaginer, okay. On a l'impression de voir un peu comme des météorites, en fait.
Ouais.
C'est granuleux et c'est là que la maturation s'est bien faite.
Okay.
Mais ça a un aspect un peu surprenant pour les gens qui viennent nous visiter la fabrique. On leur montre, on a un peu croire que le chocolat est moisi. Mmh. Mais en fait, non, il est blanchi naturellement. Mais derrière, on en fait des magnifiques tablettes bien tempérées. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on explique aux gens aussi, votre chocolat a pris un coup de chaud chez vous, le jetez pas, il est très bon.
Ouais.
Peut-être pas à la dégustation, mais faites-en un gâteau au chocolat, un chocolat chaud. Voilà.
Oui,
mais il est toujours excellent. Et nous, c'est la même chose qu'on a avec nos briques. Vous avez juste un chocolat qui va peut-être un peu maturer et changer.
Okay.
Mais voilà, la dégustation pure en carré de chocolat, c'est moins agréable. Le beurre a migré et il est trop présent.
Et donc ça, donc la maturation.
Maturation et ensuite... on va dire moulage.
Ouais.
Moulage, là, on va... déjà, il faut broyer ses briques. Ce n'est pas une étape anodine. Parce qu'avant, on le faisait... Voilà, on le fait au marteau. Parfois,
oui.
tu viens là, plutôt en fin de journée ou en fin de matinée, parce qu'il faut recharger. On a fini la production. C'est des productions qui fonctionnent à la demi-journée. Et tu vois l'équipe mettre des grands coups de marteau sur les briques. Ils les cassent en deux, en trois, et puis ils les mettent dans la tempéreuse pour que ça refonde. Voilà, ça, c'est... on fait toujours comme ça. Après, on a une machine qui nous permet de broyer les briques aussi pour aller un peu plus vite, parce que ça fait beaucoup, sinon. Mais, et ensuite, on fond le chocolat, on le tempère et on fait toutes sortes de produits. Alors, comme je disais, beaucoup de tablettes, parce que c'est notre savoir-faire principal. C'est la façon la plus simple et pour nous la plus noble de déguster du chocolat, sans apparat, sans artifice, sans rien pour cacher le goût. Et en fait, c'est pour un fabricant comme nous, c'est là où on se livre, en fait. On a sélectionné un cacao, ça fait des mois qu'on l'a travaillé, etc. Et en fait, on le propose à nu, en fait. On se met un peu à nu et les gens ont le droit de dire j'aime pas, j'aime, etc. Il y a pas, ouais, y a pas de sucre, il y a pas d'autres produits, de noisettes pour faire passer le chocolat. Là, c'est vraiment, on propose le produit et il y a des gens qui vont dire ah, celui-ci, je l'aime pas. Mais par contre, j'adore l'autre à côté et ça, on le comprend. Mais on va toujours chercher ce qui nous plaît, on va pas chercher le consensus. Le consensus, ça ne nous intéresse pas. Faire plaire au plus grand nombre. Alors, si ça plaît au plus grand nombre, tant mieux. Mais quand on a sélectionné nos cacaos, ils avaient une forte, il y en a qui ont des fortes acidités, ouais, qui sont complexes à travailler, des notes très florales. On a un Pérou qui est acidulé, floral, fruité, et avec une allonge sur des notes très crémeuses, des notes de noisette et autres. Il était très surprenant au début, celui-ci. Bon, bah lui, il y a un consensus en plus, tout le monde l'adore. Et bon, après, pour un pâtissier et un chocolatier, ça fait vraiment des desserts qui ont un goût du jamais vu. Donc, c'est une mousse au chocolat ou des choses simples. En fait, on conseille souvent de faire peu de cuisson avec nos chocolats parce qu'ils perdraient en arôme.
Ouais.
Ça, c'est important parce que ça torréfierait encore un petit peu le cacao. Et puis surtout, on s'est donné beaucoup de mal pour faire ressortir le goût. Et c'est vrai que ça serait dommage de le couper avec beaucoup d'ingrédients parce qu'ils vont prendre, ces autres ingrédients vont prendre beaucoup de place. Donc, dans ces cas-là, peut-être prendre un chocolat qui est plus standard. Mais si vous voulez faire une recette où le chocolat est mis à l'honneur, ben là, nous, c'est ce qu'on fabrique, des chocolats, ouais, qui vont exprimer quelque chose, et il va falloir vraiment adapter sa recette souvent, mais le chocolat, la recette sera mémorable. Et je parlais de cette glissade, cette mousse au chocolat, en quelque sorte, c'est pas une mousse, hein, mais parce que il y a au moins deux fois plus de chocolat que dans une mousse classique.
Ouais.
Et généralement, quand on l'a fait à des amis qu'on invite à manger à la maison, ils voient le plat arriver, ils se disent, mais il n'y en aura pas assez. Donc, ouais, on les sert. Et en fait, ça suffit.
Ouais, c'est ça, c'est tellement.
Bon, le problème, c'est que ça suffit, mais le goût est tellement intense en cacao qu'ils en redemandent. Et bon, il y en a toujours assez. Mais alors qu'une mousse au chocolat, ça va être mousseux, ça va être très aérien.
Ouais.
Ça, c'est l'approche très française. Et finalement, le chocolat arrive, on va dire, en second plan. Il est là pour accompagner cette texture et autres. Et on n'apprécie pas le chocolat pour ce qu'il est en lui-même. On ne va pas chercher forcément du fruit et autres dans ce type de recette-là. C'est vraiment une recette qu'on apprécie énormément. Et quand on l'a fait avec un de nos chocolats, bah, elle est à chaque fois assez impressionnante.
Donc, si on revient, enfin, plutôt du coup, à quel moment vous passez du coup de votre petite 20 mètres carrés à Montreuil à cette incroyable chocolaterie.
L'histoire s'accélère. Après, de par notre approche est très différente et on finit par gagner des prix. En fait, on par être repéré par certaines personnes. Enfin, Alain Ducasse, par exemple, on l'avait rencontré sur le salon Taste of Paris. Et l'anecdote est assez drôle parce qu'on y est avec Candice. Et puis, le premier jour, on nous présente Alain Ducasse. Et on a droit à une minute, hein, pas plus, parce qu'il est très occupé. Et on le comprend. Et on lui dit qu'on fabrique du chocolat. Et il nous dit, bah, super, vous avez une tablette. Et là, Candice me regarde et je fais bah non. Alors qu'en fait, on était là pour intervenir sur le salon, on faisait une intervention sur le Bean to Bar. Et là, on devient un peu tout rouge parce que c'est un peu dommage quand même, ouais, d'être chocolatier, de se dire qu'on va faire des belles rencontres et de pas avoir de tablette. Et on dit bah non, en fait, on a rien. Et il fait ah bon bah tant pis. N'hésitez pas si vous en avez une, mais en gros le rendez-vous est manqué, on le reverra pas, hein, parce que on l'a jamais. Enfin, on l'a. Et finalement, bon, pour la petite histoire, le lendemain, le salon durait 3 jours, je crois. Et il revient parce qu'il est parrain. Et puis de loin, on le voit, on essaie de croiser le regard, on lui fait un geste de la main. Il fait ah bah voilà, il nous fait un geste et tout. Il répond et on s'approche. Mais on dit bon, cette fois-ci on a la tablette. Et très bien, il fait bah, faites-moi goûter. Il l'ouvre, il la prend, il la casse, il la goûte. Et là il fait bah ouais c'est super bon. Et en fait il nous dit comment vous la torréfiez, comment vous la fabriquez. Et comment vous l'empaquetez ? Ça fait 3 questions plutôt techniques. Et donc là-dessus, on lui répond du tac au tac, parce que c'est notre métier. Et il dit, bon, bah, très bien, donnez-moi votre carte, elle n'est pas perdue. Et voilà comment ça s'est passé. Et 3 jours après, on était rappelés pour intégrer le Collège culinaire de France, parrainé par Alain Ducasse. C'était la dernière question, qui peut parrainer votre chocolat ? Qui peut attester de la qualité ? Donc c'était quand même un beau cooptage, on va dire.
Ouais.
Et donc ça, il y a eu ça. Après, au Salon du chocolat, on a eu le prix de la découverte et l'année suivante, le prix des 25 meilleurs chocolatiers du salon. On a eu 3 années de suite les piqûres d'or, voilà, qui est dédiée. Il y a une catégorie chocolat et qui est dédiée aux produits d'épicerie fine. Donc dans la catégorie chocolat et aussi pour notre packaging. En fait, on a toujours souhaité faire un beau produit, c'est important. Mais il fallait pas qu'il soit juste beau, il fallait qu'il raconte notre histoire, et évidemment, et il est très important, il raconte beaucoup de choses, beaucoup plus que qu'il n'en laisse paraître, et dedans, il fallait que le produit soit bon, parce que une fois qu'on l'a goûté, bah, il faut que les gens y reviennent, et on a souvent, enfin, c'est ce qu'on voit, c'est pas tout, voilà, si le produit est magnifique, etc., mais qu'il a pas de goût, qu'il est décevant, oui, les gens n'iront pas le racheter. Et nous, c'était, je dirais que c'était le plus important, le goût, hein, ça a toujours été le plus important, mais on vend pas une tablette nue, on la vend, packagée, donc. Il fallait que le packaging soit beau.
Et voilà. Super, moi j'adore ces aquarelles.
C'est gentil, merci.
Moi je trouve ça trop joli et surtout, tu vois, c'est vraiment marquant. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment une poésie directement dans la... sur le packaging et ça change aussi vraiment. Et voilà, enfin, c'était quoi à l'origine? Pourquoi vous vous étiez... Alors, comment vous vous êtes dit, tiens, ça va être...
L'histoire, elle est... On a mis beaucoup de temps. Déjà, le nom Encuentro, on a mis presque 6-7 mois à le trouver. On est passé par tous les noms possibles, le chocolat de Candice et Antoine, enfin voilà, des trucs un peu bateaux. Et puis, Encuentro, c'est pas une blague, j'ai des petits cahiers. En fait, on écrivait tout, c'était sur la première page, il y a marqué Encuentro. Et après, on en a fait un cahier entier, on n'en s'en sortait plus. Franchement, on était prêt à abandonner parce qu'on n'avait pas de nom, il nous fallait un nom. C'est quand même embêtant d'avoir un bébé sans nom. Et puis, Encuentro, en fait, c'est la petite plage où on allait faire du surf, qui est dans le nord de la République dominicaine. Ça s'appelle Playa Encuentro. Et alors, on n'y allait pas tous les week-ends, hein, parce qu'on était tout le temps à la fabrique. Et puis, en plus, ça était à 7 heures de route. Donc, on y allait quand on allait dans les plantations et quand on pouvait. Mais on aimait bien aller là-bas, parce que c'est un endroit caché. Et donc, c'était un lieu où on rencontrait plein de nationalités différentes, des gens qui venaient surfer. Enfin, l'ambiance était super. Et donc, ça veut dire la rencontre. Et ça nous remémorait cette plage. Et on s'est dit, c'est un super nom, mais il est imprononçable. En France, ça va être compliqué. En plus, on s'inscrit dans un produit très traditionnel français. On arrive de nulle part avec un produit qu'on veut présenter dans des lieux de qualité, donc les épiceries fines, les grands magasins. Bon, avec un nom espagnol, on se met beaucoup de freins, on se tire beaucoup de balles dans le pied, mais en même temps, il raconte notre histoire. En tout cas, il reprend l'histoire là où elle s'était arrêtée, en République dominicaine. Et ça va être notre fil rouge, en fait, d'aller à la rencontre des producteurs, de permettre aux gens d'aller à la rencontre de produits de cacao rares. Ouais. Et aujourd'hui, bah, c'est ce qu'on fait. Les gens peuvent venir et venir à notre rencontre. Et donc, c'est vraiment notre fil rouge. Ce nom, c'est pas juste un nom comme ça. Et finalement, aujourd'hui, les gens s'y sont faits. Et je pense que c'est... Voilà, ils sont contents d'avoir de trouver du sens dans le produit qu'ils achètent par le nom. Et donc, l'aquarelle, derrière, c'est arrivé ensuite. On voulait que notre packaging traduise les arômes du chocolat qu'on dégustait. Et c'est comme ça qu'est venue cette idée de se dire, bah, en fait, quand on a un chocolat qui a des notes de fruits rouges, il faudrait que le packaging le transcrive. Des notes d'agrumes, il faudrait aussi des notes de citron. Et comme on trouve toute cette richesse aromatique, il n'y a rien de plus triste que d'avoir une tablette qui va être blanche, noire, craft, etc. On voulait que ça soit... qu'il y ait une explosion de couleurs comme une explosion de saveurs. Et c'est comme ça qu'est venue cette idée d'aquarelle. Et après, pourquoi la cabosse? C'est parce qu'en fait, il se trouve que pour faire une tablette 70% avec notre recette, c'est-à-dire 70% de fèves et 30% de sucre, eh ben, il faut l'équivalent d'une cabosse de cacao. Okay. Donc, quand tu tiens une tablette de chocolat à 70% Encuentro, il a fallu une cabosse pour la faire. Okay. La symbolique était forte. En 85%, du coup, on a mis 2 cabosses et en 100%, 3 cabosses. C'est à peu près ça. Mais la symbolique était là parce que on a réalisé, on le savait, que beaucoup de personnes déjà ne savaient pas que le cacao provenait de cabosses, que le chocolat était fabriqué à partir de cabosses qui étaient récoltées à l'autre bout du monde. Et les gens ne savaient pas que c'était très coloré. Et surtout, les gens ne savaient pas qu'il fallait une cabosse pour une tablette. Ouais, on a l'impression que... Enfin, voilà. Donc, cette symbolique était forte. Et on a développé notre gamme comme ça. Et aujourd'hui encore, dès qu'on mange un chocolat, qu'on va sourcer un nouveau cacao, on réfléchit ensuite à l'aquarelle. Et c'est nous qui faisons cette aquarelle à la maison. Là, on en a des cahiers. Alors, je ne sais plus où ils sont. Tu vois, là, c'est l'aquarelle de la tablette elle-mère.
Je me suis dit, mais du coup,
la dernière qu'on a sortie. Alors, on s'est toujours fait accompagner au début par. En fait, on nous a présenté une petite agence qui a bien grandi depuis, hein, mais qui s'appelle Art Feels Good. Hein, s'il y en a qui veulent travailler pour leur marque avec une agence de créa. Et donc, on travaille toujours avec eux. Et ils nous ont aidés à faire la mise en place de ces packagings, etc. C'est vrai qu'on avait des idées très précises sur ce qu'on voulait faire. Ouais. C'est très empreint de notre histoire. Donc, là-dessus, on a toujours pris les rênes. Mais voilà, aujourd'hui, ils nous accompagnent toujours dans nos créations. Et donc, typiquement, là, ce que tu vois, c'est la cabosse. Alors, elle est quand même multicolore parce que c'est celle qui nous a permis de faire la cabosse, le packaging de la tablette Elmer. Oui, Elmer et sa famille, c'est la dernière tablette qu'on a produite. C'est une tablette qu'on a sortie en 100 exemplaires. Pourquoi 100? Parce qu'on avait kilos de fèves. Et l'histoire de ce cacao, c'est que le producteur s'appelle Elmer. Donc, un peu comme Elmer l'éléphant.
Ouais.
Et nous, il se trouve qu'on a 3 enfants, donc 9 ans, 7 ans, 4 ans et demi. Et bah, Elmer, ça fait. On connaît bien l'histoire.
Ouais.
Et l'histoire d'Elmer, l'éléphant, c'est que c'est un éléphant qui est coloré, qui ne veut pas être comme les autres, qui du coup se peint en gris, etc. Mais il perd toute sa singularité. Et finalement, à la fin de l'histoire, tous les éléphants veulent devenir comme Elmer parce qu'Elmer, il a une vraie identité. Et en fait, l'histoire de ce cacao d'Elmer qu'on travaille, elle est aussi fabuleuse. C'est que c'est un producteur qui est au fin fond du Salvador et depuis 10 ans, on lui dit que son cacao est moche, son cacao est pas bon, son cacao est gros, les fèves sont immenses. Tu vois, c'est les fèves que t'as là aussi derrière le bureau. C'est des fèves qui sont 3 à 4 fois plus grosses que des fèves normales.
Okay.
Et le cacao est blanc parce qu'en fait, c'est une génétique très rare, mais ça, elle le savait pas. Et donc, dans les pays producteurs, ce qu'ils aiment bien, c'est faire du cacao broyé grossièrement, ouais, faire des boulettes de cacao et le râper pour faire du chocolat chaud ou voilà. Et en fait, son cacao, bah, il va donner un chocolat qui va être très clair, plutôt chocolat au lait, donc ça plaît pas. Ça ne répond pas aux standards locaux, très doux, pas d'amertume. Donc finalement, ça ne répond pas aux standards locaux aussi. Et donc, son cacao, bah, il le bradait à la coopérative. Personne n'en voulait. Et nous, quand notre ami sourceur salvadorien nous a dit, bah, voilà, je vous ai ramené un petit kilo du Salvador, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, Elmer, il nous dit que personne n'en veut, etc. Et nous, on a vu ça, on l'a transformé en chocolat, on lui a dit, bah, écoute, personne n'en veut, mais nous, on en veut, tu lui prends tout ce qu'il a, on lui réserve sa récolte et on va faire une magnifique tablette avec. Ça, c'était il y a 2 ans, parce qu'il a fallu 2 ans. Entre-temps, il y a eu beaucoup de difficultés sur la qualité du cacao. C'est pas tout d'avoir une génétique super de cacao. Il faut que le travail de post-récolte du producteur soit bon, c'est-à-dire la fermentation et le séchage. En fait, c'est ça, c'est ces 2 étapes, fermentation-séchage, qui font passer un cacao du stade de cacao commun, qu'on consomme à 99% dans le monde,
ouais,
à du cacao fin, qui est décorrélé du cours de bourse, qui, lui, peut être vendu à d'autres prix. Encore faut-il avoir des clients.
Ouais.
Et bah, Elmer, d'une part, il n'avait pas de clients, et en plus, il faisait la fermentation, elle était bonne, sa fermentation, ça on l'a vu, mais il y avait un problème de séchage. Ça, on ne peut pas lui en vouloir, il est dans les pays producteurs, c'est très compliqué, mmh, il fait très humide. Et en fait, les lots qu'on a reçus, on recevait différents lots, 1 kilo, 5 kilos, etc., ces 2 dernières années. Et en fait, il y avait une odeur désagréable qui se développait. Et nous, derrière, on faisait des tablettes pour goûter, nous, pour voir, mais en fait, vous avez la pépite entre vos mains. Mais il y a cette odeur qui va tout gâcher et on ne, ouais, peut pas la masquer. Donc nous, on a fait des tests et on a dit, bah, écoute, on continue quand tu es prêt. Continue à nous envoyer, on sera là quand tu auras enfin une bonne récolte. Malheureusement, celle-ci, on ne peut pas la proposer parce que nous, dans notre approche, il n'y a pas de beurre de cacao, pas de vanille, pas etc. Et on ne va pas couper ton chocolat, ouais, pour faire, bah, des, ouais, ganaches, ouais, et autres. Donc en fait, on va faire une tablette et on va faire une belle tablette, mais là, on ne peut pas. Et c'est dur comme réalité parce que derrière, on a un producteur qui comprend pas ce qui se passe et nous non plus. Et finalement, l'année dernière, on a fini par avoir 20 kilos. Et encore une fois, heureusement, il a eu la bonne idée de mettre 10 kilos d'un côté, 10 kilos de l'autre. Et on ne sait pas pourquoi il y a encore 10 kilos qui ont développé une mauvaise odeur. Bon. Mais il restait 10 kilos qui étaient super. Et avec ces 10 kilos, on a fait 100 tablettes. Et on a pu enfin faire un packaging à la hauteur de son travail, de son histoire. On l'a raconté sur notre site. Son histoire, elle est fabuleuse. Et aujourd'hui, c'est la première fois que quelqu'un fait une tablette avec son cacao et la propose. Alors évidemment, un cacao aussi rare avec cette histoire, etc., c'est une tablette qu'on vend 20 euros. Mais le prix n'est pas un sujet. C'est dérisoire par rapport à l'histoire, à la difficulté et à l'expérience que ça procure. C'est une tablette qui aura des notes de caramel beurre salé, pour te dire. Ouais. Pas du tout des notes fruitées qu'on peut avoir dans d'autres chocolats. On ne parle pas d'une qualité supérieure. On ne parle pas de... Voilà, mais on parle juste d'un cacao qui est tellement différent. Il a une identité différente. Ouais. Qui va procurer des émotions différentes. Et voilà, donc pour le, on en revient à la petite aquarelle, ce cacao, bah on lui a fait, c'est pour elle-mère, on
oui,
voulait
coup,
que
là,
ça traduise le côté généreux, caramel, noisette, etc. de ce chocolat, donc il y a des couleurs chaudes, mais il y a ce quadrillage qui rappelle l'histoire d'Elmer l'éléphant, parce que l'histoire, elle est vraiment très similaire. Et donc là, on attend, normalement, cet été, probablement la première récolte, mais en volume, c'est-à-dire entre 50 et 100 kilos.
ok.
Et nous, on est prêt à lui acheter, donc à un prix qui sera probablement 5 fois supérieur à ce qu'il peut vendre à la coopérative. Et là, on va proposer la tablette en plus grande quantité. Mais là encore, on n'a pas de garantie parce qu'il y a toujours ce stress de
Ouais.
savoir d'où vient ce sujet. Voilà, la fermentation et le séchage, c'est le nerf de la guerre des producteurs de cacao. Et c'est pas tout. Voilà, pour faire un bon chocolat, il faut un bon cacao.
Ah,
Donc
c'est bien.
voilà un petit peu comment on a construit notre gamme. Et aujourd'hui, bah on a, voilà, on a 12 origines qui ont toutes des couleurs différentes et toute une expérience différente.
C'est absolument passionnant et vraiment, je pense que je pourrais continuer à te poser des milliards de questions, mais je vois le temps qui passe et je me dis que ça va faire un épisode beaucoup trop long. Donc, au pire, on fera un épisode 2. Mais du coup, merci beaucoup. Enfin, vraiment, c'est fascinant, c'est génial. Bah, du coup, maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Donc, déjà, si toi, t'étais un de vos chocolats, tu serais lequel?
Je serais lequel? Ben, tu vois, j'aime bien notre cacao sauvage de Bolivie, en fait. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est, il est complètement imprévisible et il demande. En fait, il est très subtil. On a toujours été comme ça chez Encuentro. On n'est pas du tout dans la. Je parle avec Candice. Alors, je parle pour moi, mais aussi pour Candice. On est vraiment. C'est un peu fusionnel, notre boîte et notre façon de travailler ensemble. Mais pourquoi? Parce que c'est ce côté. On va pas imposer ce qu'on fait. C'est plutôt mystérieux. Il faut prendre le temps de l'apprécier. Et cette tablette, elle est vraiment, elle s'apprécie tranquillement, seule, parce que si on la compare, elle peut paraître moins complexe alors qu'elle est très
Ouais.
subtile. Il n'y a pas de notes acidulées, d'explosivité, voilà, de cette vivacité. Elle a des notes de miel, c'est assez fou, des notes de rose. Et donc c'est ça qui, c'est vraiment une belle tablette. Puis avec toute la complexité qu'il y a à la travailler, elle symbolise un petit peu toute la complexité de notre travail, de notre approche, notre persévérance en fait.
Très bien. Un de vos chocolats qui est parfait pour... Je cherche une situation. pour aller se réconforter, je sais pas moi, un dimanche soir. Tu vas avoir un côté un peu réconfort.
Un dimanche soir, alors un chocolat où là, je dirais, tu vois, on fait pas que des tablettes comme je te disais, on fait un rocher. Et en
Ok,
fait,
très
lui, il est
bien.
quand même assez réconfortant dans le sens où
Ouais.
on fait un rocher parce que on n'a pas 36 recettes, on n'en a qu'une seule. Un rocher avec intense en noisettes et cacao, donc c'est 60% de noisettes, 25% de cacao et 15% de sucre. Recette secrète. Bah après, on a une façon de le fabriquer qui est très, très spécifique
Mais il est trop bon parce
et
qu'il
il
a
est
une
très
texture
réconfortant. Voilà, il y a
incroyable.
une double texture qui est à la fois très fondante parce qu'on l'amène à cette granulométrie qui est très douce. Et à la fin, on va jeter une certaine quantité de noisettes et de cacao pour qu'il y ait un croquant. Et donc, il y a le côté à la fois fondant et croquant et qui est réconfortant parce qu'il est fort en goût en noisettes et en cacao. Il y a une sucrosité qui est juste présente pour révéler les arômes, mais qui n'est pas trop présente. Alors, lui, il est réconfortant au point qu'on en mange beaucoup trop. Et ouais, là-dessus, on voit que les gens ont vraiment adhéré.
Non, mais je trouve que ouais, il a une texture hyper spécifique et en plus à laquelle tu t'attends pas forcément. Tu vois ce que je
Ben,
veux dire? Quand tu sais pas, je trouve que
oui.
la première fois que tu croques, tu t'attends pas à cette texture-là et c'est hyper
Il
agréable.
est, ben, encore une fois, je pense que clairement, c'est un rocher comme il n'en existe pas ailleurs,
Ouais,
parce qu'en fait, c'est pas un
clairement.
praliné, c'est vraiment notre approche. On a décidé de faire quelque chose qui était radicalement différent au point de peut-être de déplaire aux amoureux du rocher praliné. Mais on aime bien déplaire parce que si on se dit que si on déplaît à certains, c'est que certains vont les autres vont vraiment adhérer au point qu'ils vont en faire leur rocher favori. Et c'est ce qui se passe, enfin, c'est ce qu'on essaie de faire avec nos tablettes. Voilà, encore une fois, on ne cherche pas le consensus.
Oui. Une origine de chocolat dont tu pourrais plus te passer.
une origine de chocolat dont je pourrais plus me passer. Écoute, il y en a deux. Bah, la République dominicaine, on la travaille tous les jours à la fabrique. C'est celle qui finalement, parce qu'elle a des notes, elle aussi de miel, mais très différente de la Bolivie sauvage. C'est celle qu'on utilise le plus en pâtisserie, en chocolaterie, même pour les rochers. Parce qu'elle a finalement ce côté là aussi réconfortant, ce côté, cette subtilité, ces notes de cacao, mais ce côté gourmand. Voilà, ce qui en fait vraiment un cacao par excellence pour de la pâtisserie, et on peut faire des recettes aussi qui sont très très surprenantes. Et en même temps, un dont on peut pas se passer, il est à l'opposé de celui-ci, c'est le Pérou. On a des fèves très rares du Pérou, et lui, sa particularité, ce que je disais, c'est qu'il est fruité, acidulé et en même temps très gourmand sur la longe. Alors, on fait pas les mêmes pâtisseries avec, hein, parce que cette acidité, ce côté floral aussi que j'oubliais, il faut le dompter. Mais quand on le mange en tablette, c'est vraiment surprenant. Et lui, on s'en sert dans énormément de produits aussi, parce que il a ce... Bah, il existe quand on fait un ourson, par exemple un ourson guimauve, il va prendre la place qui va compenser la présence de la guimauve, il va être présent, ouais. C'est ça qu'on cherche dans nos produits, en fait donner sa place à chaque ingrédient. Et généralement dans l'enrobage, le chocolat est là pour fermer le produit et pas pour s'exprimer. Ouais. Donc on utilise un chocolat extrêmement beurré, 20% un chocolat de couverture qui finalement n'a d'intérêt que de fermer la coque. Et dans notre cas, on utilise notre Pérou 70%. Donc une fève très rare du Pérou, un arbre qu'on ne trouve que là-bas, mais ça lui donne une puissance. Par exemple, notre ourson, c'est ouais. pas un ourson pour les enfants. Il peut plaire aux enfants, c'est vraiment pour les grands-enfants. Mmh. On l'a sorti en octobre après une année de test complète. Alors, c'est une guimauve au chocolat entourée de chocolat 70% Pérou. Et il a connu un succès fulgurant. Et là, on en fait toutes les semaines. Mmh. Parce qu'il y a ce goût de chocolat, en fait. Ce goût du Pérou fruité acidulé qui peut déstabiliser. Hein. On ne trouve pas ce qu'on trouvait avant dans les oursons. Mmh. Et on l'utilise aussi pour enrober nos orangettes, nos citronnettes, nos gingembrettes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce côté fruité, il vient en complément. On voit mal sur une orangette acidulée ou une citronnette mettre un chocolat très rond, ouais. très gourmand. Voilà, donc on vient... Ce Pérou, il est parfait pour ça. Et donc lui, on pourrait pas s'en passer. C'est vraiment un cacao omniprésent à la fabrique, comme la République dominicaine.
Est-ce qu'il y a un chocolatier, une chocolatière, pardon, un pâtissier ou une pâtissière avec qui vous aimeriez bien faire une création à quatre mains, tu vois, justement pour développer soit une tablette spéciale, soit un petit enfin tu vois, je parle comme les oursons, tu vois, dans la même gamme.
Bah écoute, on a beaucoup suivi. Si Nina Métayer, elle veut travailler avec notre chocolat, on serait très contents. On allait justement, on souhaitait prendre contact avec elle parce que, voilà, on a des chocolats qui sont très singuliers et qui peuvent faire des desserts fabuleux. Il faut ouais. prendre le temps de les dompter, comme on disait. Et donc, ce serait avec grand plaisir si ça l'intéresse.
Eh ben, je vous le souhaite.
Et si elle veut venir, voilà, encore une fois, et puis même toute autre personne qui veut venir découvrir notre savoir-faire, un pâtissier, chocolatier, faut pas hésiter à venir. On est toujours là, en fait. On est dans la fabrique. La fabrique est ouverte. En fait, on a une boutique au bout de la fabrique, mais vous venez voir la fabrication, c'est fait sous vos yeux et vous pouvez goûter tous les chocolats. Donc c'est ça qui nous tient à cœur. C'est dans, comme je disais, c'est notre nom, Encuentro, c'est d'aller à la rencontre. Nous, on est là quand il n'y a pas un souci de machine, quand on ne court pas à droite à gauche, mais on est vraiment toujours au cœur de la fabrique et on sera très content. On est même souvent en boutique. Donc on sera très content de faire la dégustation, la visite de loin des ateliers, parce qu'on ne peut pas évidemment rentrer comme ça dans l'atelier, mais voilà, faut pas hésiter à venir nous voir juste à côté de l'île.
Oui, en plus, c'est pas très loin.
Non, c'est pas loin. Quand il n'y a pas de grève, c'est 58 minutes
ouais,
de train
de
et
Paris,
10 minutes de bus.
Après, de n'importe où ailleurs en France.
Ouais, de Paris, voilà, c'est rapide. Du reste, ça peut prendre un peu plus de temps.
Merci beaucoup. J'ai 5 dernières questions. Plutôt Pérou ou République dominicaine ?
Non, on restera quand même République dominicaine. C'est assez sûr, c'est notre pays de cœur en quelque sorte et on y retournera. Voilà, il y a une énergie qui se dégage de ce pays et même si notre histoire la première partie s'est terminée rapidement, c'était pas lié à la République dominicaine en soi et voilà, on a toujours une partie de notre cœur qui est là-bas et c'est ça qui nous stimule, qui nous inspire tous les jours et qui nous fait aller dans des directions qu'on n'a pas forcément prévues aujourd'hui. Voilà.
Tablette ou pâte à tartiner ?
Ah non, on reste vraiment tablette. Ça, c'est notre cœur de métier. On adore la pâte à tartiner, mais la tablette, c'est ce qu'il y a de plus simple Et on aime bien la puissance de la simplicité.
La tablette maturation parfaite, selon toi?
La tablette maturation parfaite?
Ouais.
Dans...
Genre, laquelle, tu vois, où tu te dis celle-ci, la maturation, c'est exactement ce que j'aime.
Bah, là, on monte dans les pourcentages. Je trouve que notre tablette 85% République Dominicaine ou Haïti, finalement, les cacaos sont légèrement différents. Haïti a une pointe d'acidité, une pointe d'agrumes. Mais pourquoi? Parce que là, on voit vraiment la puissance de la maturation qui adoucit l'amertume, qui rend l'amertume belle. Bon, on est dans le Nord, il y a beaucoup de produits amers. Et l'amertume, ce n'est pas un défaut. C'est juste un goût qui est plus compliqué à apprécier. Alors, il y a des amertumes désagréables hein, quand elles sont liées à l'astringence. Mais il y a des très belles amertumes. Et nos 85% Haïti ou République Dominicaine, c'est toujours un plaisir de les goûter parce qu'on est... Bah, on est toujours surpris par cette douceur et ces notes boisées et ce fruit qui apparaît ensuite. Et ça, c'est très surprenant. Ouais, ouais.
Noël ou Pâques?
Je dirais Noël ou Pâques. Question difficile parce que nous, on aime bien... nous, en fait, c'est un peu toute l'année. Nous, on aime bien dire qu'on est chocolatier toute l'année et oui. Que Pâques et Noël sont des passages obligés pour créer... Nous, ce qui nous passionne au-delà de créer des chocolats, c'est de faire des produits qui vont susciter des émotions chez les gens. Donc, on est Pâques et Noël sont des périodes qu'on adore. Maintenant, c'est des périodes tellement intenses où on fait des produits tellement spécifiques qui sortent de notre.
Ouais, c'est ça.
Nous, par exemple, là, on est en pleine période de Pâques. Ben, je trépigne et Candice aussi parce qu'on a reçu en janvier dernier 40 kilos de cacao de Martinique qui sont revenus avec des grands skippers français, avec des trimarans qui ont traversé l'Atlantique. Ben, ce cacao, pour le moment, on ne peut pas le travailler parce qu'il faut faire des lapins. Et donc, dès le 2 avril, le lendemain de Pâques, eh ben, on a hâte de pouvoir torréfier ce cacao. Alors, on va faire des tests parce que finalement, là, on ne sait pas quel goût il va avoir. Donc, on adore Pâques et Noël, mais nous, on prend plaisir à créer des chocolats. Et là, typiquement, bah, on va faire à peu près 80, ça va faire 80 kilos de chocolat, 800, 900 tablettes. Et on ne sait pas encore quel goût elles vont avoir. C'est ça qui est passionnant. Là, c'est un cacao. On va dire qu'on a pris le risque. Normalement, on ne fait pas ça. Mais là, c'est un projet avec des producteurs en Martinique, un cacao très spécifique. C'est un projet qui se développe de plus en plus. On est très peu à avoir ce cacao en France. Et on n'allait pas dire on va goûter, vous dire, etc. Non, on l'a senti déjà en arrivant, il est fruité, il est fabuleux. On va essayer d'en faire la plus belle tablette possible. Et c'est ça qu'on attend avec impatience.
Bah, du coup, hâte de voir ça aussi. Et puis donc, dernière question, ourson en chocolat ou gingembrette?
Bah là, c'est dur, franchement. non, mais notre ourson... Il est quand même. Bah le gingembre, les gingembrettes, c'est autre chose. Bon, c'est un fruit confit. L'ourson, disons qu'on le crée de A à Z. La guimauve au chocolat, elle a demandé beaucoup de travail. L'enrobage aussi, mine de rien, parce qu'enrobé avec un chocolat non beurré, enfin non modifié, voilà, comme notre Pérou 70%, ça a demandé... En fait, c'est ce produit, il y en a qui vont le manger en une minute, enfin je dis une minute, 10 secondes. nous, derrière, c'est 3 ans de travail, en fait. Parce ouais. Que l'enrobage d'un produit comme ça, avec un chocolat comme le nôtre, bah, c'est un vrai sujet. Et on a mis plus d'un an à maîtriser l'enrobage parfaitement. Et pareil, on n'est jamais certain que le tempérage va être parfait tout du long. Donc parfois, on s'arrête même de produire parce qu'on sent que le chocolat est en train de se détempérer. Voilà. Ouais. Et donc ça, c'est du ressenti permanent. Donc quand on mange... Et je dirais en plus qu'on en mange tellement peu par rapport à ce qu'on a à la fabrique. Parce que nous, quand on mange ça, on a l'impression de... Bon, on se dit qu'on préfère le réserver pour les autres. Voilà. Eux l'apprécieront beaucoup plus que nous. Nous, on voit tout ce qu'il y a derrière.
Ouais.
Et derrière un simple ourson, il y a un travail monumental. Comme une simple tablette, d'ailleurs. Oui. Donc, voilà. Nous, il faut qu'on arrive, Candice et moi, à prendre du recul par rapport à ça pour apprécier nos produits. Parce que ça nous rappelle tous les jours la problématique qu'on va avoir le lendemain. Et voilà, on a pas tout à fait ce recul par rapport à nos produits. On les apprécie énormément, mais différemment.
Merci beaucoup. Je demande à tous mes invités un petit défi, pâtissier, chocolatier, enfin, tu vois, à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc, soit un de vos produits à tester absolument, soit une recette à essayer, enfin, ce que tu veux, quel défi est-ce que tu peux nous lancer?
Bah écoute, c'est finalement assez simple, je pense. Tu vois, on a parlé beaucoup de mousse au chocolat, mais je mets au défi tes auditeurs de tester une mousse au chocolat avec le chocolat qu'ils veulent et de. Alors, nous le faire goûter, ça va être compliqué, mais nous, on serait contents d'avoir leur retour. Parce que, alors, après, on ne parle pas forcément de la République dominicaine. Là, on peut prendre n'importe lequel de nos 12 origines. Et je les mets au défi de tester une mousse au chocolat et de redécouvrir la mousse au chocolat qui aura un goût fruité, un goût de fruits rouges, un goût de fruits exotiques, un goût. Ça peut être parfois perturbant, mais ça sera une mousse au chocolat comme jamais. Ils en ont goûté. Ouais.
Et puis moi, de toute façon, je vous invite à découvrir tout. Parce que c'est ça, les oursons, les rochers, tout est vraiment spécifique. Donc, pour comprendre vraiment, votre vision aussi, je pense qu'il faut goûter.
C'est une vision, c'est une approche qu'on a et voilà, qui se veut différente, avec une signature différente. Et c'est un goût et c'est aussi toute une histoire. C'est important. Chaque produit se déguste avec une histoire qui est l'histoire de la fabrication, du produit en lui-même, mais aussi du chocolat qui est produit sous les yeux des gens qui viennent et aussi du cacao, parce qu'il ne faut pas oublier le producteur qui fait des producteurs qu'on accompagne depuis 7 ans maintenant. Au début, on leur a acheté 70 kilos. Maintenant, on leur achète, à certains, jusqu'à 3 tonnes. Mmh. Et c'est ça qui nous tient à cœur. C'est un ensemble, c'est une chaîne de valeur qui est importante. Il est important de la connaître parce que le chocolat, c'est pas juste... il faut prendre 200 grammes de chocolat. Non, le chocolat, c'est un produit qui est extrêmement noble et qu'il faut apprécier en tant que tel parce qu'il y a un travail monumental derrière une simple pistole, une simple tablette, un simple ourson. Et ça, il faut le prendre en compte dans chacun de ces desserts. Voilà, il ne faut pas hésiter. Moi, j'encourage les gens avec qui on travaille. On en a de plus en plus, des pâtissiers, des chocolatiers. Mais s'ils viennent nous voir, c'est qu'ils ont cette démarche-là. Ouais. Mais souvent, le chocolat, c'est le dernier à voir ce changement. On présente ses ingrédients, on présente ses légumes, son fromager, son beurre, sa tomate, etc., son pain. Et à la fin, on fait un dessert avec du chocolat. Et aujourd'hui, on travaille avec des pâtissiers, des chocolatiers, des chefs qui présentent le chocolat vraiment, qui présentent notre maison, Encuentro, qui vont expliquer quel chocolat ils ont choisi, pourquoi, etc. Et ça donne beaucoup plus de substance, en fait, au dessert qui va être apprécié différemment. Et ça, on voit que ce changement, il est plutôt récent. Voilà. Et dans les livres de recettes, on espère voir bientôt prendre 200 grammes de chocolat 70% de tel confrère, pourquoi pas. Nous, on n'est pas les seuls à fabriquer de notre façon. Mais aujourd'hui, il y a une réalité, c'est qu'à la ligne chocolat, il y a marqué prendre 200 grammes de chocolat.
C'est vrai.
Parfois, il y a marqué 60... chocolat noir. Mais ça veut tout rien dire parce qu'un chocolat, il est noir à partir de 43%. Ce qui est quand même assez faible, ça laisse une large part au beurre et au sucre, et 43% de fèves. Donc il faut, je pense que le monde va dans ce sens-là. Et de toute façon, en ce moment, le cours du cacao est en train d'exploser et c'est en train de rétablir un peu le marché du chocolat. Il ne va pas rester aussi haut, mais ça redonne un petit peu l'importance au chocolat qu'il aurait dû avoir. Le chocolat, c'est le cacao, c'est comme des grands vins. Enfin, il aurait dû connaître la même destinée. Bon, mais il a pris quelques centaines d'années de retard. Maintenant, il est temps de rattraper ce retard. Mais voilà, on n'est pas les seuls à agir là-dessus. On travaille à notre mission, c'est vraiment de faire comprendre aux gens qu'il y a du chocolat d'origine, du chocolat de dégustation et qu'il a un goût radicalement différent de ce qui existait avant.
Dernière question, je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode ?
C'est ce que j'ai déjà un peu dit auparavant. Il faut être curieux, le chocolat, il faut se dire qu'on repart de zéro aujourd'hui. Et il faut lui laisser toute sa chance et le considérer comme vraiment un ingrédient extrêmement noble. Lui redonner ses lettres de noblesse. Donc ça, c'est important. Et je sais que tu es très écouté par les pâtissiers, les chocolatiers, les chefs. Et ça, c'est un message qu'on aimerait passer, qui nous tient à cœur. C'est que vraiment, aujourd'hui, le chocolat mérite d'être apprécié différemment. Et nous, on fait partie de ces acteurs qui ont envie de faire changer les choses dans le monde du chocolat. Faut pas hésiter à nous contacter, faut pas hésiter à venir goûter, voilà. Et on sera très heureux de faire découvrir un peu notre approche et qui sait, de faire un petit bout de chemin ensemble, et de faire des beaux desserts, des belles créations. Ça nous fait toujours plaisir. Nous, on est très focalisés sur créer des chocolats, mais on est encore plus heureux quand des personnes prennent le temps de sublimer notre chocolat. Voilà, c'est pas notre cœur de métier. Nous, on se met au service des autres pour ça. Et c'est un honneur pour nous de voir des personnes qui prennent le temps de parler de jeunes chocolats et de les transformer. Voilà, il y en a qui le font aujourd'hui. Et on espère qu'il y en aura de plus en plus. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà.
Bah, merci beaucoup.
Toujours disponible.
Et vraiment, merci. C'était vraiment fascinant. Et je te dis, je pense que j'aurais pu encore passer des heures et des heures tellement c'était fascinant.
Bah écoute, merci avec grand plaisir. Et puis voilà, maintenant, désolé pour les auditeurs, je te propose, on va aller faire un petit tour dans la fabrique pour sentir un peu toutes ces odeurs. Voilà, passer dans les salles, ça c'est assez enivrant.
Bah, j'ai hâte. Merci.
Bon bah, merci beaucoup.
Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @lea_rvrd. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com sans oublier le S de Papille et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt !